Commencez, à vous.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est vraiment important parce que ce soit le harcèlement, le cyberharcèlement, les violences de nature sexuelle, sexiste, c'est aussi des infractions pénales. Et donc, souvent, les chefs d'établissement ou les familles, puisque je représente les deux, en fait, il y a le problème de l'articulation entre le pénal et vous, les procédures disciplinaires. Alors déjà, pour que ce soit simple, en fait, il faut vous dire que vous, évidemment, vous n'êtes ni des policiers, ni des procureurs, et donc votre domaine d'intervention, il est uniquement, bien évidemment, au niveau de votre établissement. Et ce qui est important de comprendre, c'est que l'action pénale et l'action disciplinaire, elles n'ont pas le même but et pas la même temporalité. En fait, et ça va vous aider à savoir comment réagir si on vous dénonce des faits de cyberharcèlement, des faits de violence sexuelle, puisqu'il y en a de plus en plus. En fait, le but de la procédure disciplinaire que vous faites, vous, c'est de faire cesser, enfin, votre but, vous, c'est de faire cesser immédiatement les faits d'harcèlement, cyberharcèlement, violence sexuelle au sein de votre établissement. Donc, vous avez une temporalité qui est du très court terme. Et en fait, votre boussole, ça doit être de vous dire, si moi, dans mon travail, j'avais la même situation se passer vis-à-vis de moi, je suis harcelée, j'ai une violence sexuelle par rapport à un collègue, comment je voudrais qu'on réagisse par rapport à moi? Vous voudriez pouvoir aller travailler en sécurité. Donc vous, la procédure disciplinaire, la temporalité, elle est de court terme, d'assurer la sécurité de votre élève qui vous dit, voilà, moi, il y a des violences sexuelles, il y a du harcèlement. Et voilà, vous, c'est d'arriver à ce que l'élève puisse reprendre à court terme. Et quand je dis court terme, c'est entre 8 et 15 jours ou 3 semaines maximum, une scolarité en sécurité. En fait, le pénal, le but n'est pas que l'élève puisse avoir une sécurité dans sa scola, puisse reprendre une scolarité sereine à court terme. Le but du pénal, c'est de sanctionner quelqu'un qui commet une infraction. Et donc la sanction, alors en fonction de l'âge évidemment du harceleur, etc., c'est quelque chose qui va se passer sur du long terme. Et avec les délais actuels de la justice, rien qu'entre l'enquête de police et la convocation par exemple devant un juge pour enfants, il va se passer 1 an et demi ou 2 ans. Donc vous voyez bien qu'effectivement, si vous attendez de savoir ce que va donner une enquête de police, même que ce soit même sur des faits, moi je vois des cas de violences sexuelles avec plainte, et des fois 6 mois après, il n'y a toujours pas eu d'audition. Et vous vous retrouvez dans une situation où vous devez agir à très court terme, alors que la police va agir à long terme. Et on a vu, il y a eu suite au suicide, je crois que c'était du petit Lucas, 2 ans après quasiment, il y a eu les comparutions des jeunes devant le juge pour enfants. Donc on voit bien qu'il y a une temporalité qui ne correspond pas à vous, assurer finalement l'ordre et le bon fonctionnement de votre établissement. Et il faut bien vous dire aussi, je pense que ça va vous simplifier la tâche, de vous dire que de toute façon, en fait, comme il y a une indépendance de la procédure pénale et disciplinaire, de toute façon, vous n'êtes pas tenu, quelle que soit l'issue de la procédure pénale, ça ne change rien pour votre procédure disciplinaire. Je m'explique. En fait, il y a beaucoup déjà de familles, quand il y a une infraction, qui vont pas vouloir porter plainte. Et même si le harceleur ou la personne accusée de violence sexuelle était relaxée au pénal, ça ne change rien que si dans votre établissement, il y a une atteinte au bon fonctionnement de votre établissement, il y a une violation au règlement intérieur, vous êtes en droit de sanctionner. En fait, la faute pénale, qui est très restrictive parce qu'elle découle d'une infraction dans le code pénal, n'a rien à voir avec vous, votre faute disciplinaire pour laquelle vous êtes habilité à statuer. Et le code rural et de la pêche vous dit que vous engagez une procédure disciplinaire, c'est l'article R811-82, pour toute atteinte aux personnes et aux biens. Donc, toute atteinte aux personnes ou aux biens peut donner lieu à une sanction disciplinaire et évidemment tout manquement au règlement intérieur. Donc, il ne faut pas vous dire, voilà, peut-être qu'il n'y a pas d'infraction pénale, etc. Parce qu'en fait, même en cas de relaxe au pénal, à partir du moment où vous êtes en capacité de montrer qu'il y a une faute dans votre établissement, il y a un manquement et que vous avez une matérialité que vous êtes en mesure d'établir, vous êtes en droit de sanctionner même s'il y avait une relaxe. Donc, une fois que ça, c'est clair, qu'il y a une indépendance totale du pénal et du disciplinaire, donc on va voir évidemment ça un petit peu plus en détail. En fait, vous, votre seule priorité, et moi, je vois, parce que comme moi, j'interviens aussi souvent pour des familles, je vais vous parler des cas où, en fait, en gros, votre procédure disciplinaire, elle tombe, que ce soit le DRAF qui annule ou le juge administratif ou le juge judiciaire. En fait, vous, la seule chose importante, c'est de mener votre enquête contradictoire pour établir des griefs par rapport à l'élève. Et l'enquête contradictoire, c'est un gros mot pompeux pour dire que, de même que si vous vous signalez à votre administration ou à votre supérieur que vous êtes harcelé à votre travail ou qu'il y a des violences sexuelles sur votre travail, en fait, qu'est-ce que c'est l'enquête contradictoire? On va vous convoquer, on va vous dire, bah voilà, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur ou madame, et vous allez devoir dire, bah voilà, voilà les faits que je dénonce. Et donc vous, quand vous enquêtez, vous commencez évidemment par recevoir la victime des faits présumés. Vous lui demandez du factuel parce que les gens sont dans l'émotion. Donc le factuel, c'est lui dire où, quand, qui a pu être témoin, est-ce que ça s'est passé pendant le cours de sport dans les vestiaires, est-ce que ça s'est passé au cours de maths, et vous essayez de savoir qui a été autour. Par exemple, si ça se passe en cours, qu'il y a, je sais pas, on a touché une fille pendant le cours, ou là vous essayez de savoir à côté de qui la personne, par exemple, était assise. Je vous donne un exemple pratique. J'ai eu un gamin qui était Asperger et il a été accusé d'avoir montré son sexe en cours. Il était en prépa et immédiatement le chef d'établissement panique à bord, le met en mesure conservatoire sans l'avoir auditionné, sans avoir auditionné les témoins et convoque le conseil de discipline. En fait, il aurait suffi d'interroger le gamin et surtout les gens qui étaient assis à côté de lui, qui ont confirmé qu'en fait, il n'avait rien fait. Et en réalité, c'était là des accusations en fait mensongères vis-à-vis de cet élève qui était en plus en situation de handicap. Mais le mal était fait. Il y a eu un article dans la presse. Lui, il a été tellement traumatisé qu'il n'a jamais pu revenir dans l'établissement. Donc, en fait, même si on vous signale des faits très graves, en fait, il faut garder, on va dire, la tête froide en vous disant de façon un peu chirurgicale, en fait, je fais venir la victime et j'essaie ce qui nécessite beaucoup de psychologie, en fait, de savoir les faits. C'est quoi les faits? C'est où? Il y avait qui potentiellement comme témoin et vous auditionnez aussi les témoins qui peuvent être autour. Voilà. Et donc ça, c'est votre enquête contradictoire et vous auditionnez aussi le harceleur ou la personne présumée accusée pour savoir sa version des faits et vous lui demandez aussi si lui, il a des témoins. Et en fait, ce qui va être clé, c'est ça. Et aussi, ayez le réflexe quand vous faites venir une victime, parce que ça, moi, je le vois souvent, j'ai des dossiers disciplinaires qui sont vides. En fait, le chef d'établissement, il va faire un beau rapport en disant, voilà, voilà ce qui s'est passé, etc. Mais il n'a pas demandé, il n'a pas fait un rapport d'incident. Où il n'a pas repris la déclaration des élèves. Et ça vaut rien, parce que je veux dire, bah voilà, moi je dis que, ok, vous avez peut-être entendu l'élève, ok, mais si vous n'avez pas de témoignage ou de rapport d'incident, alors ça c'est pareil, parce que finalement personne ne vous l'explique. D'un point de vue factuel, quand vous faites venir la victime, les témoins, vous avez deux possibilités. Soit la personne va écrire de sa main, datée et signée. Soit vous faites un compte-rendu d'entretien en disant j'ai reçu ce jour, vous notez pendant l'entretien hein, les faits et à la fin vous faites signer la personne, je certifie la véracité des déclarations, enfin, vous la faites signer pour bien acter des déclarations. Donc soit c'est la personne auditionnée qui écrit. Soit c'est vous qui faites un compte-rendu d'entretien. Et pourquoi ça c'est important? Parce que du coup, pour la matérialité du manquement qui est reproché à l'élève, en fait, il faut que vous ayez des billes. Voilà. Moi, par exemple, enfin, j'ai obtenu des annulations. On accusait un élève d'avoir été en possession de shit ou de cannabis, enfin, je sais plus. Et du coup, en fait, bah, comme il n'y avait pas de rapport d'un surveillant, il n'y avait pas d'élève qui avait vu, etc. Bah, le fait de dire, moi, chef d'établissement, je dis que cet élève est coupable, ça vaut rien. Enfin, voilà. Donc, vraiment vous dire, en fait, si jamais un juge doit ou la DRAF va doit étudier votre dossier. Encore faut-il que vous ayez des choses. Et c'est même si en toute bonne foi vous auditionnez. Et moi, je le vois beaucoup pour des accusations de violences sexuelles ou des faits très graves. En fait, il y a des fois une sorte de on va dire de peut-être de panique, c'est beaucoup dire, mais en fait, du coup, le chef d'établissement fait à marche forcée, convoque tout de suite, etc. Alors qu'en fait, finalement, cette enquête contradictoire qui lui permet de réunir des preuves n'a pas été faite. Et donc, du coup, une fois que la procédure est lancée, alors qu'il y a rien dans le dossier, et c'est là souvent qu'en fait, on arrive à des procédures après qui sont annulées ou qui tiennent pas la route. Et en fait, cette enquête contradictoire que je vous conseille, par contre, de faire quand même très rapidement. La temporalité, elle est importante puisque votre mission, vous, c'est d'assurer la sécurité de vos élèves. Moi, je vous conseille, si c'est des atteintes graves, le jour même, vous auditionnez la victime. Enfin, il faut que dans la semaine, vous ayez auditionné la victime, les gens autour qui ont pu être témoins, le présumé accusé, les témoins éventuellement de celui-ci, évidemment tout, alors bien évidemment tous les membres de l'équipe éducative surveillance, les interroger sur ce qu'eux ont pu voir, voilà. Et ça, il faut que ce soit fait dans un délai très court. Et une fois que vous avez ça, vous savez ce que vous avez comme élément. Voilà. Et une fois que vous savez ce que vous avez comme élément, parce que ces éléments vont vous servir à motiver votre convocation au conseil de discipline et vont vous permettre aussi, dans un délai très court, surtout si c'est des faits graves, des accusations de nature sexuelle, etc., de faire, le cas échéant, une mesure conservatoire. En fait, la mesure conservatoire, elle va être motivée si l'élève menace de troubler l'ordre au sein de votre établissement ou le bon déroulement du service public. Alors vous, c'est vrai que vous avez une petite particularité par rapport au code de l'éducation. Votre article sur la mesure conservatoire, ça dit, c'est D811-83-12 du code rural, sous réserve du droit à consultation du dossier. Le directeur peut interdire à titre conservatoire et afin d'assurer le bon fonctionnement, en attendant la comparution, peut faire cette mesure conservatoire. Donc vous, en fait, dès la convocation à la mesure conservatoire, l'élève, il a le droit à accès au dossier, visiblement. Donc, c'est pour ça que, de toute façon, avant de faire une mesure conservatoire, en fait, c'est normal que vous vous interrogiez pour savoir qu'est-ce qui se passe dans votre établissement. Est-ce qu'il y a potentiellement un risque de trouble à l'ordre public parce que la victime n'ose plus venir, parce que les professeurs constatent, par exemple, si c'est une élève qui vous dit qu'elle a été victime d'une agression sexuelle, vous pouvez aussi interroger le professeur principal et le délégué de classe pour voir si il y a eu un impact sur la santé. Et le professeur, par exemple, un professeur peut vous dire, je l'ai déjà eu dans des dossiers, j'ai constaté depuis, par exemple, 15 jours où que l'élève ne parlait plus, une baisse des notes. Ça, c'est important aussi, vous voyez, puisque ce soit dans le harcèlement, les agressions de nature sexuelle, il y a en général, dans le harcèlement, ça fait partie de la définition de l'infraction, c'est l'atteinte à la santé et à la scolarité, donc voir avec le prof principal et interroger éventuellement aussi le délégué de la classe ou le délégué élève pour savoir si c'est des faits de harcèlement, s'il a pu lui entendre des choses, voir des choses. Voilà, donc ça vous permet de savoir ce que vous allez avoir dans votre besace pour votre procédure disciplinaire. Est-ce que c'est fondé ou pas? C'est pas parce qu'on vous parle de choses très graves qu'il y a une réalité non plus. Donc, essayez de faire la part des choses. Et moi aussi, c'est vrai qu'avec, ce qui est très bien, c'est qu'on parle beaucoup de harcèlement. Mais j'ai déjà eu le cas, et alors ça, je pense que c'est compliqué pour vous aussi, des fois des fausses accusations faites en groupe, d'accusations de nature sexuelle ou de harcèlement, où vous avez 3-4 personnes qui vont venir vous voir en même temps dans le bureau en disant voilà, tel élève, il fait des remarques sexistes, il touche les filles, etc. Et en fait, que c'est pas du tout fondé. Et des fois, j'ai des dossiers disciplinaires. Par exemple, j'en ai un qui a été annulé par la cour d'appel administrative, où c'était un gamin qui avait été accusé de violences sexuelles et sexistes pour avoir touché des cuisses, des seins, etc., faire des remarques sexistes. Ça reposait sur 4 témoignages de 4 gamines. Et en fait, la réalité, c'est que c'était une cabale parce que c'était une ex-petite amie qui se vengeait. Et du coup, ça a été annulé parce qu'en fait, il n'y avait aucune réalité. Donc, même si vous avez 3 personnes qui viennent ensemble dans le bureau vous dire « bah voilà ce qui se passe », dites-vous quand même, du coup, vous interrogez d'autres personnes que ces trois personnes. C'est-à-dire que il faut entendre aussi le présumé agresseur ou harceleur et voir si on dit, bah voilà, en cours de gym, il a touché la cuisse ou je ne sais quoi. Essayer de voir qui pouvait être présent parce que, voilà. Donc, aussi, c'est pas parce qu'il y a des gens qui viennent vous voir en même temps pour vous dire, voilà, la même chose. Ça peut être aussi, après, du harcèlement par diffusion de fausses rumeurs. C'est vrai que vous avez un métier qui est complexe. Donc, ne pas se fonder juste sur éventuellement des gens qui viennent vous voir en plus en même temps, vous dire, ah ben voilà, on a vu ça et qui ont exactement la même version. Voire, de toute façon, demander aux surveillants, demander au prof principal, demander, enfin voilà. Donc, ça, c'est cette enquête. Donc, cette enquête vous permet, un, éventuellement, donc, d'avoir un dossier disciplinaire où vous avez matière pour une faute disciplinaire et de motiver votre mesure conservatoire qui va être prise rapidement puisque si les faits sont graves, vous faites cette enquête contradictoire relativement rapidement et vous motivez bien votre mesure conservatoire, vous le mentionnez expressément qu'il y a une menace au trouble à l'ordre dans l'établissement et au bon déroulement du service public. Vous le notez bien noir sur blanc. Et faites attention, j'ai encore trop de chefs d'établissement qui parlent d'une exclusion. Donc, une mesure de conservatoire n'est pas une exclusion, mais je l'ai encore dans pas mal de dossiers. Donc, il dit « vous êtes exclu jusqu'à au conseil de discipline ». Non, parce que sinon, l'avocate dira « bah non, ça a déjà été sanctionné ». Et j'ai aussi des chefs d'établissement. Faites attention à votre pronote, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, ou école directe. J'ai aussi des chefs d'établissement qui font des mesures conservatoires et qui sont indiqués dans Pronote comme étant une exclusion temporaire. Donc ça, faites attention aussi si vous faites la mesure conservatoire. Et après, vous, comme je vous ai expliqué que le pénal, vous n'êtes pas ni policier ni procureur et vous n'êtes pas là pour établir la faute pénale. Vous, une fois que vous avez établi éventuellement une matérialité des faits, une fois que vous avez éventuellement mis la victime à l'abri avec votre mesure conservatoire, votre deuxième réflexe, c'est le signalement, pour le coup, à la police, le signalement au procureur, où là, vous allez dire, parce que le signalement, article 40, si vous êtes fonctionnaire, de toute façon, c'est la même chose, c'est le signalement de faits graves, de nature sexuelle, je vous en avais parlé sur une autre formation, c'est l'article du code de procédure pénale 434-3 qui est une obligation de dénonciation de toute façon. Donc, l'article 40 dit c'est sur le champ, mais sur le champ, ça ne veut pas dire que vous ne faites pas cette enquête contradictoire. Vous voyez, vous réunissez vos éléments, on va dire dans la semaine maximum si c'est des faits graves et là vous faites votre signalement article 40 et ne le faites pas. Moi je vous conseille de le faire. En fait l'idée c'est que dès que on vous signale des faits qui peuvent être de nature pénale grave, comme vous êtes tenu de faire sur le champ, vous faites le signalement et vous annexez à votre signalement les éléments que vous aurez recueillis. Les éléments recueillis, ça va être la parole de la victime, la parole des témoins, la parole du présumé agresseur, et vous dites, voilà, on m'a énoncé des faits de viol, d'agression sexuelle, de harcèlement. Le harcèlement, c'est une infraction pénale. Vous expliquez ce qu'il en est, et là, vous avez matière aussi pour dire, voilà ce qu'on me rapporte. Mais vous n'êtes pas juge. En fait, c'est à partir du moment où on vous parle de faits qui ont une certaine vraisemblance, mais vous n'êtes pas juge pénal et vous n'êtes pas enquêteur. Donc après, c'est pas à vous d'établir la réalité pénale, ça sera au service de police. Mais vous aurez fait votre devoir par rapport, puisque notre thème, c'est votre rôle dans le territoire et les intervenants. Vous, votre seul rôle par rapport à la police, au procureur, etc., c'est de faire votre signalement en mettant ce que vous pouvez avoir comme élément. Donc, la loi dit, vous joignez ce que vous avez comme élément. Voilà. Après, ce que va en faire le procureur, j'allais vous dire, c'est pas votre problème. C'est-à-dire que ça, c'est plus entre vos mains. Vous, ce qui reste entre vos mains, c'est est-ce que vous vous dites est-ce que j'ai matière ou pas sur un manquement à mon règlement intérieur ou à une atteinte grave à personne ou bien, Et est-ce que j'ai une faute disciplinaire? Est-ce que j'ai un problème d'ordre dans mon établissement, d'atteinte à l'ordre public, d'atteinte à la santé de mes élèves? Voilà. Donc après, ce que va en faire le procureur? Alors effectivement, bien évidemment, hein, c'est important de nouer un partenariat avec les acteurs, notamment au niveau du procureur, pour être quand même informé, puisque vous êtes voilà. Donc vous, c'est quand même important de savoir ce que ça va donner, mais vous avez bien compris que ça peut aussi intervenir dans un délai très long. Et en fait, vous, il faut pas que vous vous disiez j'attends pour faire ma procédure disciplinaire, parce que dans le votre code, dans votre code, vous avez un article qui vous permet, quand il y a une procédure pénale engagée, alors attendez, je vais vous relire l'article, de suspendre. Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est une usine à vapeur, et moi je vous conseille de pas suspendre, et je vais vous expliquer pourquoi, puisque vous avez l'indépendance de la procédure pénale et disciplinaire. Ça dit, donc c'est votre article D811-83-8-4. Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline régional et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, donc on est d'accord, c'est peut, c'est pas doit, c'est peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée. Et pourquoi je vous dis que c'est une usine à vapeur? C'est que déjà, c'est peu. Donc, on est d'accord que vous n'avez pas d'obligation de suspendre. C'est que, un, il faut que vous sachiez quelle est l'effectivité des procédures. Il y a deux conditions pour que vous fassiez jouer cette suspension. Un, c'est l'effectivité des poursuites pénales. Une simple plainte, c'est pas une poursuite pénale. En fait, il faut que l'action publique ait été engagée. Donc, l'action publique engagée, donc là, effectivement, ça nécessite un partenariat avec les services de police ou les services du procureur. Ça veut dire que c'est soit une information judiciaire. Une information judiciaire, ça veut dire que le procureur décide de désigner un juge d'instruction. C'est soit une mise en examen, ça veut dire que le juge d'instruction dit, voilà, j'ai des éléments concordants qui me font penser que, donc c'est en gros, soit il y a une désignation d'un juge d'instruction, soit il y a un acte qui est une mise en examen par le juge d'instruction, soit il y a une convocation devant une juridiction, donc ça peut être une convocation devant le juge pour enfants, voilà, mais vous comprenez bien que le temps du pénal, en gros, il y en a pour quasiment 2 ans. Et que dit la loi pendant ce temps? Donc, si vous avez un élève accusé, par exemple, de harcèlement, on va dire, ou de violence sexuelle, vous décidez de suspendre. Vous vous retrouvez avec un élève en mesure conservatoire. Alors, il faut bien savoir qu'effectivement, la loi ne fixe pas de délai pour la mesure conservatoire. Mais comme le pénal peut durer, on va dire, entre 1 et 2 ans, vous vous retrouvez avec un élève qui est scolarisé dans votre établissement en mesure conservatoire et vous avez l'obligation de lui assurer la continuité éducative. Alors, dans ces cas-là, vous devez éventuellement lui proposer le CNED ou négocier avec la famille un changement d'établissement. Donc, voyez, vous vous retrouvez avec un élève sinon qui reste scolarisé avec vous l'obligation de lui assurer sa continuité pédagogique pendant 2 ans ou 3 ans, ce qui est ingérable. Et alors, surtout qu'en plus, il faut savoir que si la juridiction pénale, admettons que le juge pour enfants considère qu'au bout de 2 ans, qu'il y a une matérialité des faits, mais de nature pénale. D'accord? Parce que vous pourriez avoir une matérialité des faits d'atteinte à l'ordre public dans votre établissement. C'est différent. Enfin, s'il y a une matérialité pénale, ok, le juge pénal dit l'élève a commis la violence sexuelle. Vous pouvez, dans ces cas-là, ça, on va dire, si la matérialité des faits est reconnue par le juge pénal, ça vous engage. C'est-à-dire que, officiellement, l'élève, il y a une matérialité des faits de nature sexuelle. Donc, vous devez mener à terme votre procédure disciplinaire. Mais si le juge, à l'inverse, relaxe, en fait, ça vous empêche pas de faire votre procédure pénale si vous avez des griefs, vous avez une matérialité qui découle de votre enquête. Donc, en fait, même en cas de relax, même en cas de motivation disant qu'il y a un doute sur la matérialité des faits, en fait, comme les faits de nature disciplinaires, ne sont pas l'effet de nature pénale. À l'inverse, ça ne vous engage pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez quand même faire votre procédure pénale. Et c'est pour ça que je pense que c'est une usine à vapeur de vous suspendre suspendre votre procédure disciplinaire avec un élève en mesure conservatoire pendant des délais qui vont être peut-être de 1, 2, voire 3 ans. Alors que vous, de toute façon, si vous avez matière à sanctionner, vous pouvez sanctionner par rapport à ce que vous aurez réuni dans votre dossier. Donc voilà, en résumé, vous pouvez, mais c'est pas une obligation, puisqu'il y a une indépendance de la faute pénale et il y a une indépendance de la faute pénale et de la faute disciplinaire. Voilà, donc je pense que, en fait, vous, votre seule boussole, c'est de dire, voilà, c'est quoi l'ordre et le bon fonctionnement de mon établissement et est-ce qu'il y a un manquement dans mon établissement. Et le fait d'avoir fait votre enquête contradictoire, ça vous permettra, ça c'est l'autre tarte à la crème sur laquelle moi j'obtiens des annulations, que ce soit par le juge administratif ou par le supérieur qui est la DRAF chez vous ou le rectorat pour en droit de l'éducation, enfin par rapport aux établissements soumis au ministère de l'Éducation nationale, c'est l'absence de motivation. Et quand vous motivez des manquements, qui sont aussi des infractions pénales, vous actez bien de l'atteinte au bon ordre de votre établissement, et vous détaillez les griefs. Parce que moi, des fois, j'ai des motivations, c'est manquement au règlement intérieur, fait grave. En fait, on ne sait pas ce que c'est les faits. Il faut que quand on lise votre lettre, quelqu'un qui ne connaît pas le dossier, il sache quels sont les faits qui ont été reprochés à l'élève. Voilà, donc sur la motivation, et vous, par rapport à l'indépendance de la faute pénale et de la faute disciplinaire, votre boussole aussi, ça doit être que, donc c'est des faits imputables à l'élève, mais je vais vous donner des exemples pratiques en qualité d'élève, c'est des faits qui sont susceptibles, selon la jurisprudence, d'interférer gravement dans le fonctionnement de votre établissement. Et alors, c'est là où on va avoir des exemples pratiques. La jurisprudence parle de faits susceptibles d'interférer gravement dans le fonctionnement dans un cadre lié à l'établissement. Et par exemple, le juge a considéré qu'il était fondé une procédure disciplinaire sur une agression sexuelle dans un car scolaire, alors que vous n'êtes pas vous en fait théoriquement vous êtes chef dans votre établissement et aux abords de l'établissement, et c'est là où ça change maintenant avec les réseaux sociaux, c'est les abords réels ou les abords virtuels avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais là, par exemple, dans le juge a considéré qu'une atteinte sexuelle dans le car scolaire est liée à l'établissement scolaire, et donc le chef d'établissement avait le droit de faire sa procédure disciplinaire d'agression sexuelle dans un car scolaire parce que c'est des élèves du même établissement. De même que, par exemple, ont été validées des menaces ou du racket, non, même pas aux abords de l'établissement, mais entre des élèves de l'établissement, ça se passe plus aux abords devant, ça se passe loin. Mais ça se passe entre des élèves, et donc on va considérer que ces menaces et ces violences entre les élèves, en fait, c'est lié à l'établissement. Il y a eu aussi, par exemple, alors là, ça recoupe du cyberharcèlement, l'envoi de vidéos obscènes à une élève de la classe par un autre élève, alors que ça se passait pendant les vacances. C'est pareil, on considère que, en fait, c'est à partir du moment où c'est entre élèves et que ça perturbe le bon fonctionnement de l'établissement et que c'est non détachable de la qualité d'élève, on considère que du coup vous avez le droit à vous de le sanctionner. Et j'ai par exemple trouvé aussi le cas d'un élève qui avait été trouvé en possession d'une hache dans un autre établissement scolaire que le sien, et le juge administratif a validé. Donc vous voyez, l'élève avait une hache, avec une hache, allé dans un autre lycée, Et le juge a considéré que c'était en lien avec sa qualité d'élève parce qu'il allait menacer l'élève d'un autre établissement. Et c'est pour ça aussi que maintenant, dans les cas où vous êtes obligé de faire un conseil de discipline, et c'est pour ça que je vous déconseille, moi, de sursoir à statuer par rapport à la procédure pénale, vous êtes tenu d'engager une procédure disciplinaire, notamment lorsque l'élève... c'est l'article R811-83-9, lorsque l'élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyberharcèlement à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement. Je sais que ça interroge chez les chefs d'établissement, parce qu'en fait, on considère que qu'un élève aille menacer un autre élève avec une hache dans un établissement ou que l'élève menace sur les réseaux sociaux un autre élève, même d'un autre établissement, en fait, on considère que c'est la jurisprudence considère que c'est pas, ça reste un fait imputable à l'élève, à l'encontre d'un autre élève, que ce soit dans l'établissement, aux abords de l'établissement, aux abords virtuels de l'établissement, maintenant sur les réseaux sociaux, et ou si c'est dans un cadre lié à l'établissement. Parce que c'est non détachable de sa qualité d'élève. Et c'est pour ça que vous êtes censé sanctionner même le cyberharcèlement de votre élève à l'encontre d'un autre élève sur les réseaux sociaux. Voilà. De même que, voyez-vous, ça, on a validé que l'établissement, finalement, exclut un élève qui est allé avec sa hache dans un autre établissement menacer un autre élève. Donc, c'est vrai que avant, c'était plus simple parce qu'on disait le chef d'établissement, elle est compétent pour sanctionner les manquements dans son établissement et aux abords de l'établissement. C'était les abords immédiats. Et maintenant, on voit un glissement de la jurisprudence, mais à la limite, qui vous aide, puisque qui valide, s'il y a contestation par la famille, des procédures disciplinaires. Parce que, en fait, on étend, ce qui vraiment est d'ailleurs important à motiver dans vos griefs, souvent le juge reprend des faits, je vous lis la formule, des faits susceptibles d'interférer gravement dans le fonctionnement de l'établissement, dans un cadre lié à l'établissement. Donc, on voit que ce que vous êtes autorisé à sanctionner, finalement, devient de plus en plus large et que c'est une faute qui est non détachable de la qualité d'élève. Voilà. Donc ça vous aide à, on va dire, motiver et ça vous permet aussi de sanctionner des manquements où vous pouvez vous interroger. Et c'est pour ça que je sais que pendant très longtemps et même encore maintenant, j'ai des chefs d'établissement qui, quand c'est du cyberharcèlement qui se passe pendant le week-end, qui se passe pendant les vacances, vont dire « bah oui, mais ça se passe pas dans l'établissement ». En fait, du coup, c'est les abords, on va dire, virtuels de l'établissement parce que ça se passe entre élèves et que c'est pas détachable de la qualité d'élève. Et vous, surtout en tant que chef d'établissement, comme vous devez assurer la sécurité des élèves, du coup, l'idée, c'est d'assurer la protection des victimes de cyberharcèlement. Et juste une chose que j'ai oublié de vous dire d'un point de vue pratique dans votre enquête contradictoire, quand vous recevez la victime présumée d'agression sexuelle, de harcèlement, de violence, vous avez intérêt à la conseiller d'aller voir son médecin, parce que ce soit le harcèlement, les violences sexuelles, etc., et le harcèlement, c'est même dans la définition pénale, l'impact sur la santé et la scolarité fait partie de l'infraction. Et donc, c'est important que la victime, ait, quand elle vous parle d'une agression ou qu'elle vous parle d'un harcèlement, aille voir son médecin pour que le médecin, éventuellement, atteste d'un état anxio-réactionnel ou d'un état anxio-dépressif. Et vous aussi, c'est un élément que la victime, puisque vous devez assurer la sécurité au sein de votre établissement, si la victime a un certificat médical qui dit qu'elle est dans un état anxio-réactionnel et que le fait de se retrouver confrontée à son agresseur au sein de votre établissement met à mal sa santé et en plus sa scolarité si la victime maintenant a de la phobie scolaire, etc. Ce dont le médecin peut attester s'il y a un début de phobie scolaire. Et vous, ça vous aide à avoir du factuel. Voilà. Donc, en résumé, en fait, quand on vous dénonce des faits de harcèlement, des faits de nature pénale ou des agressions sexuelles, etc., en un, c'est votre enquête contradictoire avec des éléments de preuve que vous recueillez. En deux, si il y a un risque d'atteinte au bon fonctionnement à l'ordre public, vous faites une mesure conservatoire et immédiatement vous signalez. Il vaut mieux signaler trop que pas assez, article 40 ou l'autre article de façon générale de dénonciation quand il y a des atteintes sexuelles contre un mineur ou des faits graves contre un mineur. Et on ne pourra jamais vous le reprocher, parce que le seul cas où on peut vous reprocher, c'est si ça a été fait dans une intention de nuire. Moi, de toute ma carrière d'avocat, j'ai jamais vu qu'on retenait une intention de nuire contre un chef d'établissement. Donc, à partir du moment où vous avez des éléments qui paraissent censés sur le fait qu'il peut y avoir, parce qu'on vous parle de faits graves, vous faites votre signalement. Et après, en fait, vous faites votre procédure disciplinaire et vous motivez avec des griefs bien circonstanciés. Comme ça, si jamais il y a après un appel devant le DRAF ou si il y a une saisine d'un juge, en fait, le juge, la seule chose qu'il va faire, et le DRAF, c'est pareil, c'est regarder la matérialité des faits. Donc, même si vous avez auditionné les gens et qu'il n'y a pas de pièces, c'est-à-dire pas de témoignages, pas de rapport, etc., votre dossier, il est vide. Voilà. Même si vous aviez raison sur le fond, si sur la forme, vous n'avez pas des preuves, en fait, et le juge, encore plus, va regarder les éléments de preuve que vous avez, parce qu'il ne suffit pas d'affirmer dans un rapport, il faut avoir des preuves. Voilà. Donc, sur le partenariat finalement avec les autorités pénales, je pense qu'effectivement, vous, votre rôle, c'est de signaler. Et après, vous, votre rôle, c'est surtout de sanctionner dans un temps court en ayant établi la matérialité des faits. Après ça, je verrai avec Monsieur Feuillâtre et Monsieur Ruchot. C'est vrai que, par exemple, la directe, parce que vous, il y a beaucoup d'établissements privés sous contrat. Du coup, par exemple, la direction diocésaine, il y a un partenariat pour dénoncer au procureur avec un service attitré, et il y a une convention qui a été signée. Je l'enverrai à Monsieur Feuillâtre et Ruchot. Je ne sais pas si ça a été mis en place. Donc, dans le partenariat entre votre direction et les services des procureurs, pour en fait une meilleure fluidité pour les chefs d'établissement et des informations, effectivement, parce que c'est important, même si vous êtes indépendant dans votre procédure disciplinaire, que vous ayez des retours. Donc ça, je vous enverrai des exemples de partenariats signés avec des conventions entre les services du PROC et sur ce type de signalement. Voilà. Après, il y a un point sur lequel je voulais revenir. Il y en a deux. On va parler du sursis et avant du droit de se taire. Ça, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors ça, c'est pareil, je transmettrai à Monsieur Feuillâtre et à Monsieur Ruchot. En fait, le droit de se taire, c'est quelque chose. Alors, pour le moment, sur les procédures disciplinaires par rapport à des élèves qui n'est pas tranché, en fait, ce qui se passe, c'est que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont décidé que dans le cas d'une procédure disciplinaire, alors pour le moment, c'est à l'encontre d'agents. Donc à l'encontre de professionnels, en fait, c'est les seuls cas qui ont été jugés à l'heure actuelle. En fait, si on n'a pas informé dans la procédure disciplinaire la personne convoquée au conseil de discipline ou convoquée devant des commissions d'instruction du droit de se taire, en fait, du coup, on avait une nullité de la procédure. Parce qu'à partir du moment où on a déclaré des choses, un peu comme aux États-Unis, en fait, le droit de ne pas s'auto-incriminer, nous, c'est par rapport à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme. En fait, donc, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, dans les procédures disciplinaires, je vais vous lire ce que ça dit. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée. Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Alors là, ça a été rendu par rapport à des agents, par rapport à des magistrats. Du fait de la privation de cette garantie, la sanction disciplinaire litigieuse est devenue, au terme d'une procédure, est devenue, pardon, la sanction disciplinaire litigieuse est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée. Et je sais que là, donc, ça a été légèrement affiné par une décision de décembre 2024 du Conseil d'État, toujours par rapport à des professionnels. Donc, je ne sais plus si c'était disciplinaire, je crois, par rapport à un notaire. Il a été dit que s'il y a quand même des éléments qui ne sont pas que de l'auto-incrimination pendant la procédure disciplinaire, d'où l'importance d'avoir vos rapports circonstanciés, des déclarations de la victime et du présumé agresseur. Si, en fait, on peut établir la matérialité des faits par des propos qui ne sont pas que des déclarations de la personne accusée en conseil de discipline, que éventuellement la procédure pouvait ne pas être annulée. Mais si vous voulez, en fait, on marche sur des œufs parce qu'on ne sait pas si au jour d'aujourd'hui, en fait, ça va s'appliquer aussi aux procédures disciplinaires par rapport à des élèves dans des établissements scolaires. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, parce que dans les cas où il y a eu des annulations de procédures, on est d'accord qu'il y avait un texte, comme vous avez votre code rural, qui ne prévoyait pas cette obligation de mentionner le droit de se taire dans la convocation adressée aux personnes convoquées devant le conseil de discipline. Moi, j'aurais tendance à vous dire, indiquez dans vos convocations au conseil de discipline le droit de se taire, et j'enverrai à monsieur Feuillatre et Richaud, alors qu'ils l'ont sûrement déjà, il y a un vademécum pour l'enseignement supérieur où eux ils préconisent que dans la convocation devant dans le supérieur, on mentionne le droit de se taire. Moi, j'aurais tendance à vous dire, à titre de précaution, de rajouter la mention dans vos convocations au conseil de discipline, de même que vous mettez le droit de consulter le dossier, etc., que l'élève est avisé du droit de se taire, parce que on n'est pas à l'abri, comme vous savez que le temps judiciaire est un temps long. Si dans 3 ans, vous passez devant un juge administratif, moi, j'ai plusieurs procédures en cours, mais le juge n'a pas tranché, ou on me l'invoque devant le juge administratif, donc j'aurai une réponse sur ce point, voilà, dans quelques temps. Et moi, je l'invoque aussi par rapport, voilà, parce que des fois, je suis pour des écoles et des fois, je suis pour des élèves. Donc, c'est quelque chose qui est en suspens. Et moi, je pense que pour vous protéger, vous auriez intérêt à rajouter le droit de se taire. Alors, on est d'accord que quand on regarde la doctrine, vous rendez une sanction qui est éducative. Donc, c'est vrai que c'est un peu bizarre de dire à vos élèves, bah, vous pouvez vous taire. Alors que vous, le but, c'est pas de le sanctionner pénalement, ça va être de le sanctionner avec une valeur éducative. Mais voilà, moi j'aurais tendance à vous dire, vous n'avez pas l'obligation, puisque au jour d'aujourd'hui, c'est pas tranché pour les procédures disciplinaires à l'encontre des élèves, mais dans le supérieur, dans leur vademécum, maintenant ils conseillent de le faire. Voilà, moi j'aurais tendance à dire que ça vous coûte rien de mettre une petite phrase, et de toute façon, c'est très simple, si l'élève ne veut rien dire en conseil de discipline, si vous avez fait correctement votre procédure, c'est-à-dire que de toute façon, vous pouvez pas aller au champ de bataille, enfin si je puis dire comme ça, au conseil de discipline avec rien dans votre dossier, donc de toute façon, comme vous aurez des témoignages, etc., même si l'élève refuse de décocher un mot pendant le conseil de discipline, je veux dire, vous aurez matière à l'exclure le cas échéant, voilà. Donc du coup, moi je vous conseille de le faire, voilà, par sécurité, voilà, donc sans obligation. Et alors, dernier point aussi, alors sur le sursis, parce que c'est vrai qu'on en a discuté avec Monsieur Feuillatre, c'est vrai que quand je relisais les textes, en fait, même moi qui suis avocate, on a du mal à comprendre tellement c'est expliqué de façon, je veux dire, alambiquée. En fait, moi, je crois que pour simplifier les choses, le sursis, dites-vous, enfin, ça va être très simple, quand vous mettez du sursis, en réalité, vous pouvez pas le lever sans convoquer un nouveau conseil de discipline. Parce que la réalité pratique, c'est que les chefs d'établissement, dans tous les cas que j'ai pu voir depuis 20 ans, vous mettez du sursis pour, en général, les exclusions définitives. Enfin, ça arrive pour des exclusions temporaires, mais c'est assez rare. Et de toute façon, la loi dit que pour lever le sursis, vous êtes obligé de faire un nouveau conseil de discipline et faut qu'il y ait un nouveau fait. Donc, en gros, dites-vous de façon très claire que si vous mettez un sursis, en fait, vous pourrez pas mettre dehors l'élève sans faire un nouveau conseil de discipline. Et comme il faudra que vous ayez des nouveaux faits pour faire le nouveau conseil de discipline, vous avez le choix lors du nouveau conseil de discipline de juste lever le sursis ou de mettre une nouvelle sanction. Donc, de toute façon, comme vous êtes obligé de convoquer un conseil de discipline, si vous vouliez juste lever le sursis, mais que vous convoquez le conseil de discipline, du coup, bah, vous mettrez, enfin, en général, une nouvelle sanction puisqu'il y a des nouveaux faits. Et en plus, vous ne pouvez révoquer le sursis que si c'est des faits aussi graves ou plus graves que les raisons pour lesquelles vous aviez prononcé votre exclusion, avec sursis. Donc, en fait, ils ont fait une usine à vapeur, je trouve, dans la rédaction. Mais en fait, pour simplifier, si vous mettez un sursis, vous n'êtes plus en droit de le révoquer sans réunir un nouveau conseil de discipline pour les exclusions définitives. Et il vous faut, vous ne pouvez convoquer un nouveau conseil de discipline que pour des nouveaux faits. Et donc, au lieu de s'interroger sur l'opportunité de lever un sursis, de toute façon, s'il y a des nouveaux faits, ça vous permet de sanctionner l'élève. Voilà. Mais en tout cas, vous ne pouvez lever le sursis que dans le nouveau conseil de discipline pour des faits identiques, aussi grave ou plus grave. Donc en gros, ça veut dire qu'il y a eu des faits graves et que s'il a déjà été exclu avec sursis, vous pouvez là vraisemblablement l'exclure définitivement, là pour le coup sans sursis. Après, vous pouvez remettre un sursis si vous voulez. Et après, sur les durées des sursis, moi je pense que c'est vraiment l'usine à vapeur. En fait, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le sursis, notamment sur les exclusions, c'est au minimum pour la durée de l'année scolaire. Moi, j'ai jamais vu des chefs d'établissement qui mettent 2 ans de sursis. Mais après, en fait, la durée du sursis ne peut pas excéder la durée pendant laquelle ça reste dans le casier judiciaire, sauf pour, enfin voilà, donc ils ont fait toute une argumentation compliquée, mais la pratique, c'est qu'en général, le chef d'établissement va mettre du sursis jusqu'à la fin de l'année scolaire. Vous avez le droit de mettre quand c'est des, vous avez le droit de mettre un sursis total ou partiel. Voilà, bon, bah, ça, c'est après, c'est vous qui décidez. Et de toute façon, votre sursis, il va couvrir au minimum, la durée minimum, c'est le temps de l'année scolaire. Donc, je pense qu'en fait, il faut vraiment vous dire que si un élève a commis des faits graves et qu'il a une exclusion avec sursis, de toute façon, vous serez obligé de réunir un nouveau conseil de discipline parce que sinon, vous ne pouvez pas révoquer le sursis. Donc, ça veut dire que l'élève avec une exclusion avec sursis, il revient le lendemain. Après lui, on a un peu la vision du sursis, d'une peine de prison avec sursis. Donc c'est quand même assez dissuasif pour les élèves parce qu'ils se disent que s'il se passe quoi que ce soit, du coup on peut les mettre dehors. Mais la réalité pratique, c'est que en fait il faut des nouveaux manquements très graves, enfin graves, je veux dire de même nature pour vous réunir un nouveau conseil de discipline et vous pouvez pas révoquer le sursis. Le seul sursis que vous pouvez révoquer seul, c'est en fait, vous, en tant que chef d'établissement, il y a, comme vous le savez, l'exclusion définitive, vous êtes obligé de réunir un conseil de discipline. En tant que chef d'établissement seul, vous pouvez faire les exclusions temporaires de 15 jours au maximum. Et l'exclusion temporaire, vous pouvez assortir d'un sursis. Et là, pour le coup, vous ne passez pas devant. Comme l'exclusion temporaire, vous n'avez pas l'obligation de passer devant le conseil de discipline. C'est la seule, si vous avez fait une exclusion temporaire de 15 jours avec sursis, pour le coup, vous pouvez vous révoquer en reconvoquant l'élève. Mais enfin, la pratique que je vois, c'est le sursis en général, c'est enfin qui a vous que vous avez besoin de révoquer, c'est celui qui est prononcé sur une exclusion définitive. Voilà. Donc et puis de façon générale, finalement, comme il faut des faits aussi graves qui se soient commis, si vous avez mis une exclusion avec sursis sur une exclusion temporaire de 8 ou 15 jours, du coup, et qu'il y a des nouveaux faits graves, de toute façon, vous allez resanctionner l'élève peut-être par voilà. Donc, en fait, ils ont fait quelque chose de très compliqué, mais finalement, en résumé, vous retenez que vous pouvez pas révoquer le sursis, qu'il faut des nouveaux faits graves, et si c'est une exclusion avec sursis, avec conseil de discipline, prononcez, excusez-moi, si c'est une exclusion avec sursis, vous êtes obligé de réunir à nouveau un conseil de discipline. Voilà. Voilà, écoutez, donc en résumé, il faut vraiment vous dire que quand il y a des faits graves de nature de harcèlement, de faits de nature sexuelle, des menaces, des violences, etc. En fait, vous, votre objectif, c'est un, mener votre enquête contradictoire pour savoir au sein de votre établissement, est-ce qu'il y a des manquements, est-ce qu'il y a une atteinte à l'ordre, à la sécurité, etc. Après, ça, vous le faites dans un délai court, on va dire 8 jours maximum, si c'est des faits graves de nature pénale. Vous faites une mesure conservatoire si vous avez besoin de protéger la victime parce que, elle présente un état, le fait de venir à l'école en présence de son agresseur, présumé, la met dans un état d'anxiété telle que vous pouvez faire cette mesure conservatoire. Vous faites votre signalement article 40 ou votre signalement pour dénonciation de violences sexuelles à l'encontre de mineurs, etc. Parce que vous êtes tenu de le faire. Et pour le coup, ce serait une faute de ne pas le faire. Mais c'est pas à vous de déterminer si l'infraction, elle est constituée. Vous, votre devoir, c'est de dire, voilà, une jeune fille me dit qu'elle a été violée, telle personne, voilà, et elle présente un état anxieux, voilà, vous donnez vos éléments. Et après, moi, je vous conseille, comme il y a l'indépendance de la procédure pénale et disciplinaire, de faire par rapport à votre établissement pour dans un temps court pouvoir assurer le bon fonctionnement de votre établissement et la sécurité des élèves. Vous avez le droit, mais vous n'avez pas l'obligation de surseoir à une procédure pénale. Et je pense que c'est plus compliqué qu'autre chose compte tenu des délais qui sont très, 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 très longs. Et de toute façon, là, finalement, la qualification pénale ne change rien puisque la faute disciplinaire n'est pas la faute pénale. Voilà, c'est distinct. Et voilà. Et là, du coup, vous remplissez vos obligations par rapport aux autorités judiciaires de faire votre signalement article 40 ou voilà. Vous laissez la police et le procureur avec lesquels vous êtes en synergie enquêter, etc. Et vous faites votre procédure disciplinaire et vous assurez l'ordre dans votre établissement sans vous poser de questions. Et sur le point, moi je vous conseille de rajouter la petite phrase sur le droit de se taire pour pas prendre pour sécuriser vos procédures, même si vous n'avez pas l'obligation. Voilà, en résumé, un petit peu ce qu'il y a à retenir de mon intervention. Voilà.
Écoutez, un énorme merci pour tous ces éléments majeurs et très importants pour les collègues. J'ai vu qu'il y avait des questions, donc on va essayer effectivement d'y répondre. Je suis effectivement, avant de préparer les questions, ce qui est important, c'est d'avoir aussi les éléments par rapport au procureur. Vous parliez effectivement de conventions. Si au niveau national, on peut essayer d'avoir des conventions. Avec le ministère de la Justice ou avec, on essaye de le faire avec le ministère de la Justice, mais si on a des possibilités de cadrer au niveau national, ce sera évidemment très, très, très important. Je laisse la parole à François qui va reprendre les différentes questions.
Oui, tout à fait. Donc, on a des questions sur la procédure par rapport au contradictoire. Et la première question, enfin, il y a deux questions qui tournent autour de la présence des parents pour les élèves mineurs. Est-ce qu'il faut entendre les témoignages des élèves avec les parents ou pas? Et voilà. Est-ce qu'ils sont tenus de recevoir les élèves mineurs avec les parents?
Non, il n'y a pas d'obligation puisque vous êtes dans l'enceinte de votre établissement et que du coup, de même que quand un surveillant ou un chef d'établissement parle à l'élève, les parents n'ont pas vous n'êtes pas obligé de faire venir les parents. Justement, vous n'êtes pas un commissariat, vous n'êtes pas tenu par les règles par rapport aux auditions des mineurs puisque en fait c'est votre quotidien d'auditionner les mineurs, donc vous avez le droit d'auditionner sans hors la présence des parents. Après, si c'est par exemple un enfant en situation de handicap ou qui a une voilà moi, là, je ferai venir les parents, notamment si c'est un enfant handicapé, en situation de handicap.
Est-ce qu'il faut les prévenir, même s'ils viennent pas, est-ce qu'il faut les prévenir ou est-ce qu'on peut s'en passer?
Mais les prévenir de quoi? En fait, non, quand vous êtes sur le temps scolaire, les enfants vous sont confiés sur le temps scolaire. Donc, si on vous signale un fait d'agression sexuelle, enfin, je veux dire, par rapport à votre enquête contradictoire. Donc, alors, non, j'affine mes propos. C'est-à-dire que vous allez faire venir la victime, vous allez faire venir le présumé agresseur, etc. Vous allez recueillir les paroles de tout le monde. Par contre, si une jeune fille ou un garçon vous informe qu'il est harcelé, vous informe qu'il a subi des violences, après vous convoquez les parents pour leur dire, voilà, Je vous informe que votre fille ou votre fils a porté à ma connaissance des faits d'agression. Vous les aiguillez sur le fait que ils peuvent porter plainte, le fait que ce serait bien d'aller voir un médecin pour acter des blessures ou de l'état anxieux réactionnel. Donc il y a peut-être deux choses à distinguer. Il y a vous pour votre enquête contradictoire, le fait de faire venir dans votre bureau vos élèves, que ce soit le présumé agresseur ou la présumée victime, c'est votre droit et les parents n'ont pas à être là. Par contre, moi, ce que je conseille dans votre enquête contradictoire, dès que un élève vous signale des faits de nature pénale, harcèlement, violence, violence sexuelle et sexiste, viol, etc., là, vous convoquez les parents, non pas pour qu'ils soient présents quand vous interrogez les élèves, mais pour les informer. Et là, vous leur dites, je vous conseille d'aller voir le médecin, je vous conseille, vous pouvez aller porter plainte, vous les informez du parcours. Il faut bien vous dire aussi que même si les gens vous disent je vais aller porter plainte, ça n'a rien à voir avec votre obligation, vous de fonctionnaire ou vous de chef d'établissement, d'alerter article 40. Vous voyez ce que j'ai, indépendamment de ce que va faire la famille.
Merci. Concernant les témoins, faut-il faire signer tous les témoignages des témoins et peut-il y avoir un anonymat des témoins dans le cadre d'une procédure disciplinaire?
Oui, alors moi, ce que je vous conseille, parce que c'est de la tarte à la crème aussi, donc tous vos témoins, ils écrivent, je m'appelle Julie Dupont, classe de 3e 4, etc. C'est daté, signé. Et après, vous, dans le dossier disciplinaire, vous avez le droit d'anonymiser. Donc l'anonymisation, ça peut se faire où vous barrez le nom de l'élève. Vous pouvez, puisque vous aurez l'original, vous pouvez aussi taper si vous voulez pas qu'il retrouve l'écriture. Mais bon, en général, c'est pas non plus les experts Miami pour reconnaître l'écriture d'une camarade. Donc vous avez le droit, ce qui s'appelle d'anonymiser. Mais vous n'avez pas le droit, comme je le vois. Des fois, en fait, les chefs d'établissement refusent de communiquer à la famille les témoignages. Ça, c'est juste pas possible. Donc, si l'enfant est accusé d'harceler et qu'il y a des témoignages, les parents doivent voir les témoignages, mais avec une anonymisation. Après, moi, j'ai déjà fait faire à des chefs d'établissement quand je les aide à préparer des procédures. Vous avez le droit, vous, de faire un compte rendu en disant j'ai reçu une élève qui souhaite rester anonyme. Et vous avez la signature, vous voyez, être sur un document à côté. L'élève me déclare avoir peur et vouloir rester anonyme. Voilà les faits qui me sont relatés. Mais vous avez la signature de l'élève et que vous anonymiserez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, c'est ce que je conseille au chef d'établissement, éventuellement, si les élèves ont peur, c'est ils font un compte rendu en disant j'ai reçu une élève qui souhaite rester anonymisée, etc. Mais vous avez un document avec le nom, prénom et la signature et la date du témoin, quoi.
Merci. Ensuite, on a une question. Quelle posture adopter en tant que chef d'établissement dans un dossier de harcèlement sur des faits commis en cours, reconnus par certains des auteurs et par d'autres élèves de la classe, mais non entendus par l'enseignant présent qui ne nie pas la possibilité, mais ne la confirme pas?
Alors, vous, ce qui compte, c'est de savoir si vous avez des témoins. En fait, si l'enseignant qui est en charge de la surveillance n'a rien vu, c'est pas pour ça que les faits se sont pas produits. Enfin, on est d'accord. Donc, en fait, vous, la question, c'est est-ce qu'il y a des élèves autour? Enfin, surtout quand c'est des faits en cours. Moi, c'est ce que je dis au chef d'établissement. De toute façon, il y a forcément des témoins puisque les élèves, ils sont assis à droite et à gauche, il y a des gens. Voilà, quand ça se passe en classe. Alors, des fois, c'est plus compliqué si ça se passe à la récré dans les toilettes ou, etc. Mais, si vous avez des témoins dans la classe qui ne sont que des élèves, évidemment que la parole des élèves a une valeur, mais c'est pour ça que je dis toujours faites attention aux pièges. Si vous avez trois élèves qui viennent vous voir en même temps pour vous dire la même chose, vous interrogez aussi les autres élèves qui sont autour et vous interrogez aussi les témoins potentiels de celui qui est accusé. Vous voyez, il faut pas non plus, la parole de l'enfant évidemment doit être recueillie, mais dans le contradictoire, parce qu'il y a aussi des élèves qui mentent. Enfin, je veux dire, voilà. Et c'est vrai que moi, je vois aussi de plus en plus de harcèlement par diffusion de fausses rumeurs avec des accusations de harcèlement sexuel ou de violence sexuelle et sexiste qui en réalité n'était pas fondée, souvent avec, c'est pas de la du revenge porn, là c'est de revenge par rapport, et souvent c'est des élèves qui ont pu avoir des crushs, enfin vous voyez ce que je veux dire, et une espèce de vengeance. Donc voilà, je sais plus quelle était la question, j'ai fait tellement de digressions, excusez-moi.
C'était de savoir si le fait que l'enseignant
voilà, peu importe que l'enseignant n'ait pas vu, si des élèves ont vu et qu'il y a des, voilà, parce que il y a des témoins autour, enfin il y a des élèves autour, donc voilà. Par contre, on est d'accord que si personne n'a rien vu, la personne assise à côté de l'élève n'a rien vu, etc., vous pouvez vous interroger. Et c'est là où ça vaut le coup d'interroger aussi le délégué pour savoir si, parce que, enfin voilà, si c'est des faits qui se sont censés s'être produits plusieurs fois, ça devient étonnant s'il n'y a jamais aucun témoin. Vous voyez ce que je veux dire?
Merci. Après, une question concernant la mesure conservatoire. Lorsque la mesure conservatoire est prise, combien de temps pour convoquer un conseil de discipline? J'ai eu le cas d'une mesure conservatoire prise, puis l'élève a démissionné. Si l'élève était resté inscrit dans l'établissement, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire?
Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris toute la question. Oui, pardon, allez-y, oui.
La question, c'est de savoir au bout de combien de temps doit déclencher un conseil de discipline lorsqu'on a mis en place une mesure conservatoire. Puisque la mesure conservatoire peut durer dans le temps. On ne vous entend plus, vous avez coupé votre micro.
Alors, moi, ce que je conseille, c'est de faire la mesure conservatoire parallèlement à l'envoi de la convocation devant le conseil de discipline. Parce que, alors moi, je sais qu'en tant que méchante avocate, quand un chef d'établissement fait une mesure conservatoire sans avoir convoqué le conseil de discipline, j'en demande la nullité parce que le texte de loi dit « en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline », donc la mesure conservatoire « en attendant la comparution ». Donc moi, je considère qu'il faut que le conseil de discipline il ait été convoqué. Après, la mesure conservatoire, elle peut durer 4 ans. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, puisque vous pouvez avoir convoqué votre conseil de discipline et décidé finalement de sursoir à statuer jusqu'au juge pénal. Et là, dans ces cas-là, vous êtes en mesure conservatoire, vous avez convoqué le conseil de discipline. Mais pour moi, quand vous faites la mesure conservatoire, vous avez convoqué le conseil de discipline, ou faut que vous le fassiez dans un délai très bref. Moi, c'est pour ça que je vous conseillerais au niveau de la chronologie. Parce que vous, en plus, comme votre texte sur la mesure conservatoire, il met sous réserve du droit de consultation du dossier, ça veut dire que vous, alors ça, c'est pas dans le code de l'éducation, ça veut dire que vous, quand vous faites la mesure conservatoire, vous êtes censé avoir des éléments déjà qui vous permettent de le faire. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà que vous ayez fait une enquête contradictoire, puisque sinon, si vous faites votre mesure conservatoire, qu'il n'y a pas de dossier et que vous n'avez pas convoqué le conseil de discipline, pour moi, votre mesure conservatoire, elle est susceptible d'être invalidée. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la mesure conservatoire, vous devez la faire concomitamment à l'envoi de votre convocation, soit devant le chef d'établissement qui va statuer seul, soit devant le conseil de discipline. Voilà, moi, c'est ce que je conseille. Ou si vous la faites sans avoir convoqué le conseil, faut que le conseil il soit convoqué dans un délai, mais très, très court, quoi. Enfin, même pas de 8 jours après. Après, il n'y a pas de délai sur la durée de la mesure conservatoire. Vous avez le droit si vous avez convoqué le conseil de discipline, vous avez le droit, et que l'élève en mesure conservatoire, vous avez très bien le droit, vous avez le droit, pardon, de prévoir, je sais pas, un conseil 15 jours après, ou 3 semaines après, ou 1 mois après. Mais pour moi, vous avez convoqué le conseil.
Merci. Après, nous avons 2 questions autour du statut de l'élève.
Non, je vous coupe la parole parce que moi, on m'a posé plusieurs fois la question. Une fois, j'ai eu un chef d'établissement qui a fait de la résistance, mais qui s'est incliné suite à l'appel de sa hiérarchie. Si votre élève, si vous convoquez un conseil de discipline et que votre élève démissionne, enfin en gros demande sa radiation, vous n'avez plus compétence à faire le conseil de discipline. Attention, vous, votre périmètre d'action, c'est par rapport à vos élèves. Quelqu'un qui est plus élève, vous n'avez pas le droit de faire un conseil de discipline contre quelqu'un qui a quitté votre établissement scolaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, vous n'avez pas le droit de faire. Donc s'il est rescolarisé ailleurs, éventuellement le nouveau chef d'établissement peut faire un conseil de discipline. Et moi, j'avais eu le cas d'un chef d'établissement, c'est un établissement français à l'étranger, qui voulait maintenir un conseil de discipline contre quelqu'un qui n'était plus élève. Et ça, c'est pas possible. Par contre, comme on est d'accord que si on vous signale une potentielle infraction pénale, par exemple, admettons un viol, l'élève, il démissionne, enfin, il demande ça, il se fait radier de votre établissement pour pas avoir une exclusion pour viol, par exemple. Et ben, vous aurez fait votre signalement de toute façon article 40. Et par contre, pour le coup, même s'il a quitté l'établissement, vous faites votre signalement article 40. Donc vous aurez rempli votre devoir. En tant que, en fait, comme toute personne qui a connaissance d'une infraction contre un mineur, vous aurez alerté les autorités pénales, mais par contre, vous êtes obligé d'arrêter le conseil de discipline parce que vous n'êtes plus compétent. Parce que moi, je vous dis, j'ai eu même deux fois le cas du chef d'établissement qui voulait quand même faire son conseil de discipline.
Merci. Donc, concernant le statut d'élève, donc il y a deux questions qui tournent autour de savoir quand est-ce que il a sa qualité d'élève et quand est-ce qu'il est sur une qualité d'individu. Et donc la première question étant de savoir si on est informé d'un fait d'agression sexuelle entre deux de nos élèves lors d'une soirée un samedi soir, c'est à nous d'agir, nous devons ou nous pouvons agir.
Alors ça, c'est tout le problème de la, on va dire, de la zone grise. C'est-à-dire que, alors déjà, oui, vous avez l'obligation d'agir, de faire un signalement, puisque toute connaissance d'une agression sexuelle, de violence sexiste, etc. Donc vous faites votre signalement article 40. Vous menez évidemment cette enquête contradictoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, et vous essayez de savoir si la victime présumé, il y a une peur de venir à l'école, interroger le professeur principal ou l'équipe éducative, voir quelle est l'incidence au sein de l'établissement, voir si le prétendu agresseur a pas des propos sexistes ou menaçants, ou puisque là vous avez une faute qui est personnelle. Après, je vous dis, comme c'est apprécié par la jurisprudence de façon, on va dire, mouvant. Si la victime présumée, c'est tout le problème de effectivement, quand, si ça se passe entre deux élèves dans une soirée pendant le week-end, etc., mais que ça va quand même interférer dans le fonctionnement de l'établissement. Moi, j'ai par exemple eu un cas, c'était dans le supérieur, où il y avait des tags après dans l'établissement, violeur à l'intérieur, pas de sécurité, etc., où il y avait presque une espèce de guerre civile dans l'établissement. Après, vous avez aussi le problème des réseaux sociaux, où vous pouvez vous retrouver lynché comme n'ayant rien fait sur les réseaux sociaux. Vous êtes obligé de prendre en compte tous les paramètres. Donc si effectivement la victime n'ose plus venir et atteinte de phobie scolaire, etc., qu'il y a des comportements, faut voir, c'est à vous de voir factuellement si vous pouvez engager votre procédure disciplinaire, parce que vous pouvez rattacher ça quand même à la qualité d'élève, parce que c'est entre des élèves, que ça crée un climat de désorganisation dans l'établissement, qu'il y a une atteinte à la scolarité et à la constatée par des professeurs, par exemple, sur un absentéisme de la victime, une peur de venir, une phobie scolaire, etc. Voilà. Mais c'est vrai que là, vous êtes un peu dans une zone grise, mais c'est vrai qu'à partir du moment où c'est entre des élèves, et comme la jurisprudence dit que ça va dépendre de si c'est indissociable, enfin si c'est dans un cadre lié à l'établissement, si c'est une soirée entre élèves, c'est à vous d'apprécier, voilà, c'est à vous d'apprécier. Il y aura toujours un risque d'annulation potentielle, mais dans 3 ans devant un juge, si la famille saisit, et vous avez à gérer de façon immédiate peut-être quelqu'un qui n'ose plus venir à l'école. qui risque de se déscolariser pour la victime potentielle. Et après, c'est vrai que souvent, moi, ce que je vois, c'est quand il y a eu une agression sexuelle, etc., ça crée un climat qui, enfin, il peut y avoir une atteinte au bon fonctionnement de l'établissement. Donc, c'est dans ces cas-là, comme vous marcherez sur des œufs, c'est vraiment aussi de motiver la procédure disciplinaire, etc., sur la désorganisation, l'atteinte à la santé, si l'élève qui dit être victime d'une agression, c'est pour ça que là, c'est important de lui conseiller d'aller voir le médecin. Il y a une atteinte à sa santé, etc. Parce que vous êtes tenu de la protéger. En fait, le problème de cette zone grise, c'est que s'il n'y a pas eu de plainte de l'élève, ou même s'il y a eu une plainte qui met 6 ou 8 mois pour qu'on interroge les gens, parce que moi, je l'ai vu même sur des accusations de viol sur mineurs, des fois des délais très longs. En fait, normalement, le fait que la victime présumée et l'agresseur présumé ne doivent pas se croiser, en fait, ça fait partie des mesures qui vont être prononcées par un juge d'instruction, des mesures de contrôle judiciaire où on va dire la victime ne doit pas croiser son agresseur, alors que vous, finalement, vous n'êtes pas juge d'instruction, et c'est vrai qu'en plus, vous n'avez pas accès au dossier pénal. Donc du coup, c'est à vous de trouver. Mais c'est vrai que j'aurais tendance à vous dire de privilégier l'ordre au sein de votre établissement et la sécurité de vos élèves. Et que si une élève vous dit qu'elle est victime d'agression, qu'elle a été victime d'agression sexuelle de la part d'un élève, par exemple dans une soirée, voir si du coup ça se double pas d'un harcèlement, ce qui est souvent le cas après sur les réseaux sociaux, de moqueries sur les réseaux. Ou dans l'établissement, d'un climat de menace. Moi, par exemple, j'avais eu le cas d'une agression en dehors de l'établissement et du coup, le présumé agresseur faisait des remarques sexistes à la jeune fille, enfin, vous voyez, devant d'autres élèves, etc. Et du coup, vous voyez, voilà. Donc, c'est vrai que vous n'êtes pas là pour juger de l'infraction pénale, vous êtes là pour assurer la sécurité de vos élèves. Donc, après, c'est tout l'intérêt de l'enquête contradictoire et de voir dans ces cas-là si vous pouvez caractériser aussi une atteinte à la santé grâce à un certificat médical et à la scolarité avec un élève qui est tétanisé, qui a de l'absentéisme scolaire qu'il n'avait pas avant, etc. Ce qui vous permet éventuellement, parce que vous, ce qui vous permet de faire une procédure disciplinaire, c'est l'article là que je vous avais rappelé tout à l'heure, qui parle d'une atteinte aux biens et aux personnes de mémoire. Donc c'est très vague. Enfin, l'article qui vous autorise à engager, c'est toute atteinte aux personnes et aux biens. Voilà, donc après, c'est à vous quand même d'avoir des éléments, d'avoir la déclaration de la victime, etc., et d'établir une matérialité d'une faute disciplinaire en disant que la victime se sent harcelée, n'ose plus venir dans l'établissement, est en train de se déscolariser ou souffre d'une phobie scolaire, qu'il y a un climat perturbé au sein de l'établissement. Moi, souvent dans ce type d'affaires, après, il y a les réseaux sociaux qui s'en mêlent, donc ça se double de problèmes de cyberharcèlement, etc. Donc c'est prendre dans son ensemble la situation, en fait.
Et du coup, je vais poser une question qui, avant de revenir sur le statut de l'élève, qui est dans la continuité de celle-ci, c'est quand la matérialisation des faits est établie, exemple agression sexuelle, comment la qualifier en conseil de discipline sans empiéter sur la procédure pénale?
Alors, bah après, ça va dépendre de ce qui s'est passé exactement. C'est-à-dire qu'en fait, vous, en fonction des éléments, moi déjà, je pense que dans les griefs, faut toujours parler de l'atteinte à l'ordre public, enfin de l'atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement, que ça interfère gravement dans le fonctionnement de l'établissement, que ça porte atteinte, ça c'est des éléments, je pense, à mettre en lumière, hein, à la santé et comment dire, à la scolarité de l'élève avec un début de phobie scolaire s'il y a ou un absentéisme, etc. Donc bien noter les incidences dans l'établissement. Attendez, redites-moi, c'était quoi votre question? Oui, l'agression, bah, vous qualifiez par rapport à. Après, le problème, c'est que c'est très vague, ça va dépendre de ce qu'on vous a. Après, ça peut être violence sexuelle et sexiste, si c'est des violences sexuelles et sexistes qu'on vous a dénoncées, ça peut être des propos sexuels et sexistes, ça peut être une agression sexuelle en fonction de ce qu'on vous aura dit, quoi.
Ok, merci. Et du coup,
Si
j'ai.
vous n'êtes pas, vous, enfin, vous n'êtes pas, le pénal va être très précis. C'est-à-dire quand l'infraction pénale, elle va, par exemple, ça sera avoir agressé l'élève. Alors, je sais pas, moi j'ai déjà eu le cas, par exemple, je sais pas, de fellation dans les toilettes et d'avoir diffusé sur les réseaux sociaux, ça va être avoir eu un acte sexuel avec, enfin, vous voyez, dans les toilettes et diffusion sur les réseaux sociaux. J'ai eu des attouchements sexuels, donc ça va être avoir à plusieurs reprises ou en cours de sport et en cours et je ne sais où. Essayez d'être quand même factuel sur la temporalité, l'atteinte au bon fonctionnement de et à la santé de l'élève, voyez, pour motiver sur le fait et ce qui se passe dans l'établissement. Et vraiment creuser si c'est des atteintes de nature sexuelle, s'il n'y a pas eu des diffusions sur les réseaux sociaux et des faits de harcèlement, de moquerie dans l'établissement scolaire.
Merci. Donc j'ai une question qui revient en fait sur l'exemple que vous avez donné pour un élève qui fait une intrusion dans un autre établissement. Et la question est de savoir entre la qualité d'élève et la qualité d'individu, puisque on dit lorsque l'élève qui fait une intrusion dans un autre établissement le fait en tant qu'individu et pas en tant que représentant de l'établissement. Et donc d'élèves, et donc ils ont un petit peu de mal à comprendre la limite entre la qualité d'élève et entre la qualité d'individu. Et donc il redonne un exemple, s'il vole dans une boulangerie, est-ce que du coup, qui est proche de l'établissement, est-ce que c'est la qualité d'élève ou est-ce que c'est la qualité d'individu?
Alors là, je suis catégorique que la boulangerie, c'est une qualité d'individu. En fait, on va dire que effectivement, on est dans une zone grise, mais en fait, je pense que ce qui fait la différence, c'est si ça se passe entre élèves. C'est-à-dire que si un élève de votre établissement, je ne sais pas, agresse sa voisine, en fait, ça ne sera pas en qualité d'élève puisque ça touche pas un élève. En fait, je pense que la frontière, mais qui est mouvante et qui va être appréciée par le juge en fonction des éléments de fait, ça va être si ça concerne deux élèves qui soient ou pas dans le même établissement et que ça se soit passé ou pas en temps sur le lieu scolaire ou voilà. Donc la qualité d'élève, c'est pour la jurisprudence que ça interfère gravement dans le fonctionnement de l'établissement et en général que c'est lié à sa qualité d'élève parce qu'il va interférer, enfin il va s'en prendre à un autre élève, par exemple le coup de la hache. Et c'est vrai que vous voyez je vais vous lire quelques exemples jurisprudentiels parce que j'ai bien revérifié ce point-là et voir un peu les derniers arrêts. Vous voyez la hache. Moi, je me serais posé la question parce que j'aurais dit c'était pas en qualité d'élève puisqu'il était, enfin, si je contestais pour la famille, puisque ça s'est pas passé dans l'établissement scolaire. Donc, on voit qu'il y a quand même, et je pense que c'est lié aux réseaux sociaux où avant c'était établissement à bord de l'établissement et qualité d'élève, donc ça c'était simple. Et comme maintenant on considère qu'il y a les abords virtuels, donc il y a tout ce qui se passe en dehors du temps scolaire sur les réseaux sociaux, et j'ai l'impression qu'il y a un glissement de la jurisprudence qui, à partir du moment où ça concerne deux élèves, où en tire que c'est lié à la qualité d'élève. Par exemple, sur la hache, sentant ces regards identiques du juge sur ce lycéen qui avait envoyé à une adolescente scolarisée dans sa classe des vidéos obscènes et dégradantes à son égard, ces faits indissociables de la qualité d'élève ont gravement perturbé la vie de la communauté éducative, ou sur ce collégien qui, lors d'un voyage scolaire en Italie, se livre la nuit à des pratiques sexuelles avec l'un de ses camarades de chambre. Quant au jeune malintentionné surpris non pas avec le code forestier mais avec une hache dans un autre lycée, il comparaît à juste titre devant le conseil de discipline son établissement d'origine. Ici, la faute commise apparaît non détachable de sa qualité d'élève. Et là, c'est une jurisprudence à Rouen. Voyez, là, c'était certains agissements même distants dans l'espace et dans le temps relèvent de la sanction. La jurisprudence considère. Alors, depuis longtemps que les faits qui ne sont pas dépourvus de tout lien, en fait, la jurisprudence, c'est les faits ne sont pas dépourvus de tout lien avec l'appartenance de l'élève à l'établissement. Par exemple, les propos d'un collégien auteur d'une agression sexuelle à l'égard d'une jeune fille. Le tribunal soutient qu'il résulte des pièces du dossier que les faits reprochés à Gaëtan se sont déroulés. Alors bon, là, c'était dans l'autocar scolaire, c'est ce que je vous avais dit. Et les faits étaient susceptibles d'interférer gravement dans le fonctionnement de l'établissement. Ils ont été commis par des élèves du collège à l'encontre d'une élève du même collège dans un cadre lié à l'établissement. Donc j'ai l'impression avec les années qu'en fait la jurisprudence a une appréciation de plus en plus large de la qualité d'élève à partir du moment où ça concerne deux élèves du même établissement a fortiori. Par contre, effectivement, si c'est une agression sexuelle par rapport à un tiers qui n'a rien à voir, ou même si votre élève fait un trafic de drogue, je sais pas, dans sa cité, ça n'a rien à voir avec votre établissement scolaire. Par contre, s'il fait du trafic de drogue qui consomme ou qui vend à proximité de votre établissement, ça vous regarde. Par exemple, moi, je sais que j'avais là-dessus un élève qui avait été mis dehors pour avoir consommé du cannabis, mais pas aux abords de l'établissement, mais dans un parc assez éloigné. Là-dessus, c'est sa qualité de personne. Enfin, il a pas fumé aux abords de l'établissement. Donc après, l'établissement informe la famille qu'on a pu… mais enfin, vous voyez, je pense que la qualité d'élève… Bon, effectivement… De toute façon, c'est une zone grise, on est d'accord, mais que vous pouvez, avec des éléments factuels, à partir où ça concerne deux élèves de votre établissement, en plus, il y a quand même une tolérance zéro sur les violences sexuelles, sur le harcèlement, etc., vous pouvez motiver sur le fait que ça interfère le fonctionnement de l'établissement et que c'est non détachable de la qualité d'élève parce que parce que c'est deux élèves de l'établissement et que ça impacte le bon fonctionnement, le climat scolaire, etc. Vous voyez, je pense qu'il faut vous rattacher à ça pour vous dire, moi, je sanctionne. Mais effectivement, si l'élève, il vole dans la boulangerie, si vous êtes informé, vous pouvez éventuellement informer les parents, mais ça vous regarde pas, quoi.
Merci. Y a-t-il un délai minimum et ou maximum entre les faits et la tenue d'un conseil de discipline ?
Alors, non, enfin, légalement non, mais c'est sûr que c'est par rapport à quoi ? C'est quand les faits sont découverts tardivement. Moi, je distinguerais deux choses, c'est-à-dire qu'en fait, si on vous informe de faits, que vous menez votre enquête, vous êtes plus crédible à convoquer dans la foulée, on va dire dans les 15 jours et maximum dans le mois, parce que sinon ça vous décrédibilise. Vous pouvez pas dire que c'est des faits graves. Par exemple, là j'ai un cas d'un élève qui est viré. C'est un appel d'hier d'une famille. L'élève il est exclu définitivement pour des faits de harcèlement. Et on invoque des faits du mois de septembre dont le CPE avait eu vent et la famille n'a pas été informée. Je veux dire, ça tient pas la route puisque, enfin, soit l'établissement considère que c'est grave à informer la famille, à lancer la procédure dans un délai quand même raisonnable, soit on peut dire. Par contre, c'est différent si là demain on vous apporte par exemple des captures écran d'harcèlement ou de cyberharcèlement contre un prof ou contre un élève qui date d'il y a 6 mois, mais on vous en informe aujourd'hui. Moi, je pense que pour toute façon, en fait, comme moi mon leitmotiv, en fait, j'essaie moi de faire modifier la loi pour que pour les chefs d'établissement, il y ait une sorte de procédure où cette enquête contradictoire elle soit dans les décrets. Parce que je trouve qu'en fait, on vous dit, oui, dans le code de l'éducation, aucun élève ne doit être victime de harcèlement, mais finalement, vous n'avez pas de mode d'emploi. Et donc, chacun fait comme il peut en fonction voilà. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce type de formation. En fait, si vous faites votre enquête contradictoire dans la foulée du moment où vous êtes informé. Effectivement, même si c'est des faits vieux, mais vous pouvez les invoquer parce que vous venez de les découvrir. Donc, si vous faites votre enquête contradictoire et qu'au bout de 8-10 jours, vous avez les faits, bah, vous convoquez dans la foulée. Alors après, s'il y a des vacances, etc., vous pouvez convoquer à 15 jours, 3 semaines, voilà. Mais ça n'a plus… Bah, comme vous, votre but, c'est que ce soit éducatif, ça n'a aucun sens de faire 8 mois après un conseil de discipline pour des faits que vous connaissiez et pour lesquels vous n'avez rien fait 8 mois avant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, tout à fait. Autre question, si on apprend après coup qu'une jeune fille a démissionné, qu'elle a subi du harcèlement, la victime est donc partie, mais en revanche, les auteurs de cette situation sont toujours présents. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors ça, c'est une bonne question. Alors moi déjà, je resterai sur le fait que vous faites. Alors non, redites-moi, donc c'est la victime est partie.
Donc la victime est partie, on apprend après coup qu'elle est partie à cause parce qu'elle a été harcelée dans l'établissement. Donc et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux auteurs
Moi, je
toujours
pense
présents?
que, en fait, on reste sur le fait que, en fait, vous sanctionnez des manquements au règlement intérieur dans votre établissement. Donc pour le coup, même si la victime est partie, mais que les auteurs restent dans l'établissement, ils ont commis un manquement à l'encontre du règlement intérieur et à l'encontre d'une personne dans votre établissement. Donc vous êtes habilité à les sanctionner, puisqu'ils perdurent et qu'ils ont violé. Alors, et puis alors après, ça c'est mon mauvais esprit lié au fait que, enfin, par rapport à la nature humaine, les choses s'arrangent rarement. En plus, souvent, quelqu'un qui a eu un comportement de harcèlement par rapport à quelqu'un, s'il n'est pas sanctionné, il va reproduire ce harcèlement en général à l'encontre d'une autre victime. Donc, je pense que vous avez doublement intérêt si vous apprenez qu'une victime est partie et que vous apprenez les faits de harcèlement. On vous en a souvent, c'est très dur pour la victime de parler. Vous avez d'autant plus intérêt à faire votre conseil de discipline que je serais très 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 étonnée qu'ils s'en prennent pas à une autre personne par la suite dans votre établissement. Et moi, c'est pareil, j'aurais zéro. En fait, vraiment le signalement, moi, je pense que vous avez intérêt à les faire de façon. Dès que vous avez, dès que vous êtes informé de faits de harcèlement, etc., de faire des signalements, parce qu'après, comme ça, c'est à la police de faire son travail et au service du procureur. Et vous avez fait votre devoir aussi pour qu'il y ait ce maillage qui vient du fait que c'est des infractions pénales. Et après, effectivement, donc oui, moi, je ferai une procédure pour protéger vos élèves de quelqu'un qui a des comportements harcelants. Et je vous dis, c'est rarement contre une victime et ça s'arrête complètement quand la personne part. J'ai rarement vu ça de toute façon.
Merci. Est-ce qu'un mail peut contenir les témoignages?
Alors, comment ça?
C'est la seule question que j'ai. Est-ce qu'en fait, est-ce qu'un témoin, il peut le faire par mail, je
Ah
suppose,
oui, d'accord,
ou est-ce qu'il faut l'entendre? Est-ce qu'on peut se contenter d'un mail reçu? Je
alors,
l'interprète comme ça.
ouais, d'accord. Non, parce que du coup, vous communiquez pas par mail les témoignages. Vous voyez, évidemment, dans le dossier disciplinaire, les témoignages, ils sont annexés, et ils sont consultables par la famille. Éventuellement anonymisés si c'est les victimes ou les témoins ont peur. J'allais dire un mail c'est mieux que rien, mais vous dans l'absolu puisque vous êtes chef d'établissement et que vous êtes autorisé à auditionner vos élèves vous faites un compte rendu, un rapport d'incident où vous leur faites écrire ce qu'il en est. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si les parents vous envoient un mail en vous disant je vous informe que ma fille a fait une tentative de suicide et harcelée, etc., vous pouvez éventuellement produire le mail parce que vous n'êtes pas habilité, vous voyez, à auditionner les parents. Vous voyez, mais je pense qu'il y a peu de cas où vous allez utiliser un mail. Enfin. Après, on va dire c'est des commencements de preuve, parce que ce soit des mails ou des échanges sur les réseaux sociaux, etc., vous pouvez les produire dans les procédures disciplinaires. Après, je ne sais pas si c'est un mail de menace ou un mail de témoignage. C'est toujours un élément, c'est toujours des éléments. Mais c'est sûr que ça a plus de valeur si c'est un témoignage que vous recueillez, qui est daté et signé par quelqu'un. Mais en fait, dans les principes généraux du droit, en fait, la preuve peut se faire par tout moyen. Donc un mail, un échange WhatsApp, etc. Voilà. Mais je pense que ça vous dispense pas de faire un compte rendu, un rapport d'incident ou donc vous pouvez avoir en plus des mails ou en plus des échanges WhatsApp ou sur les réseaux sociaux, mais ça vous dispense pas d'auditionner les présumés auteurs et les présumés victimes et les présumés témoins.
Merci. Il va nous rester donc deux questions. Donc, comment dans l'enquête contradictoire ne pas empiéter sur l'enquête pénale.
Alors, c'est simple parce que ça n'a pas le même objet. Vous, vous recueillez purement et simplement ce que vous disent les gens, enfin, ce que vous disent et vous essayez de voir ce qui se passe dans votre établissement, avec qui est témoin de qui. Voilà. Après, c'est ça que vous mettrez dans votre signalement article 40. Et c'est ça sur lequel vous allez vous baser pour prouver une faute disciplinaire. En fait, vous, vous cherchez pas à montrer qu'il y a une faute pénale. Vous, vous cherchez à établir ce qui se passe dans votre établissement. Après, alors, je pense que vous êtes plus aguerri que moi, mais moi, je vois quand j'ai des jeunes dans mon bureau. En plus, en général, enfin, pour beaucoup, j'en vois moins que vous. On leur tire souvent les vers du nez. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, enfin, souvent, moi, j'en ai. Ils me mentent, ils me racontent n'importe quoi. En fait, en général, on obtient quand même rapidement parce qu'ils savent très mal mentir. Excusez-moi, j'ai oublié la question. C'était quoi déjà?
C'était comment, dans l'enquête contradictoire, ne pas empiéter sur l'enquête pénale?
Voilà, c'est ça. Donc en fait, je pense que c'est ça. Enfin, j'espère que j'ai été claire dans la conférence d'aujourd'hui. En fait, vous cherchez pas à établir des faits de nature pénale. Vous, vous cherchez juste à établir une faute disciplinaire. Donc en fait, le pénal, vous n'en avez quelque part, enfin, rien à faire. Je caricature. En fait, vous, le pénal, la seule chose que vous en avez à faire, c'est de faire votre signalement article 40 en disant, voilà, on m'alerte de faits qui pourraient être une infraction, qui sont ça, ça, ça. Après, la police, elle se débrouille. Donc, vous, votre objectif, c'est pas du tout d'empiéter sur le pénal ou de pas empiéter sur le pénal. Vous, votre but, c'est de voir par rapport aux gens dans votre établissement, est-ce qu'il y a une atteinte au bon fonctionnement? Est-ce qu'il y a une atteinte aux personnes? Et est-ce qu'il y a des gens qui sont témoins de ça? Et si vous avez un élève qui devient phobique scolaire et qui n'ose plus venir chez vous, si vous avez voilà, vous agissez pour protéger votre établissement, voilà. Donc si par exemple, alors admettons c'est une histoire de raquette, vous avez trois élèves qui disent qu'ils sont raquettés, il y a le harceleur, enfin, le présumé coupable qui dit mais non mais moi je suis innocent comme la. Et si vous n'avez pas de caméra pour filmer les abords de l'établissement, bah, si vous avez 10 élèves qui disent moi j'ai peur de venir, on m'a pris mon goûter, mon cartable, machin, et ben vous pourrez faire la procédure disciplinaire en vous basant sur une faute disciplinaire, une atteinte au bon fonctionnement, etc. Même si le jeune homme ou la jeune fille dit c'est pas vrai, vous n'avez pas de preuves, parce que vos preuves, ça sera de la faute disciplinaire, ça sera les témoignages de 15 élèves qui disent, et même si lui il dit que c'est pas vrai et que il n'a pas été jugé au pénal pour violence et raquette, et ben en attendant vous avez 10 personnes et peut-être le surveillant qui aura vu ou voilà. Donc vous voyez la réelle, vous il vous faut des faits vraisemblables parce que vous avez fait cette enquête, que vous avez une atteinte à votre règlement intérieur et une atteinte au bon fonctionnement dans votre établissement. Donc, vous voyez, vous laissez pas polluer sur est-ce que j'empiète sur le pénal, est-ce que, en fait, comme la faute disciplinaire n'a rien à voir avec la faute pénale, en fait, ça ne change rien à la présomption d'innocence puisque vous, en fait, si par exemple une jeune fille vous parle d'agression sexuelle, vous allez motivé parce que on vous pour des faits et le fait que ça perturbe le bon fonctionnement de l'établissement, une atteinte à la santé, à la scolarité de l'élève, est-ce que vous voyez en réalité dans votre établissement? Donc en fait, et après la nature de l'infraction pénale, de savoir si c'était un viol, une agression, etc., ça sera débattu peut-être dans 3 ans par un juge pénal. Mais en attendant, si vous avez une gamine qui ose plus venir à l'école, qui présente un état anxieux réactionnel, qui va à l'infirmerie, vous voyez ce genre, enfin. Donc vous, c'est qu'est-ce qui se passe dans votre établissement et qu'est-ce qui se passe entre vos élèves donc en fait, c'est vraiment vous dire, moi je suis pas un juge pénal. De toute façon, bah la police et le procureur et le juge d'instruction vont faire leur métier. Moi, mon métier, c'est qu'est-ce qui se passe entre mes élèves et est-ce que ça perturbe ou pas le bon fonctionnement de mon établissement? ou est-ce que ça impacte le fonctionnement de mon établissement, l'ordre public et la santé de mes élèves? En gros, est-ce que mes élèves ils peuvent venir en sécurité dans mon établissement? Et vous sanctionnez votre faute. Et c'est pour ça que c'est très important de prendre le temps, grâce à votre enquête, aussi de pouvoir bien étayer vos griefs sur la désorganisation de l'établissement et l'atteinte à la santé, la scolarité de l'élève qui n'ose plus venir dans l'établissement, etc. Du coup, ça vous permet en fait d'établir la réalité de la mesure que vous prenez. Et c'est vrai qu'en plus, comme vous avez la chance d'avoir un article qui est le fondement de en fait, votre compétence, je trouve qu'il est il est plus flou que le code de l'éducation, puisque ça vous dit toute atteinte aux personnes et aux biens. Donc, s'il y a une atteinte aux personnes qui sont des élèves de votre établissement et que vous avez, dans les témoignages recueillis par la victime présumée, suffisamment d'éléments, c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à dire qu'elle aille voir son médecin, etc. Enfin, du coup, ça permet d'étayer une réalité que vous avez quelqu'un qui n'ose plus venir travailler dans votre établissement. Donc, ça pose un vrai problème. Après, alors, je vais faire un aparté. C'est-à-dire que moi, je le vois alors beaucoup dans des établissements du secondaire, mais je pense que vous l'avez aussi. Il faut vous dire aussi que, enfin, vous assurez l'ordre public. Et l'ordre public, c'est que comment ça va se passer dans votre établissement aussi par rapport au climat scolaire général. Et moi, c'est vrai que sur des affaires quand on dénonce un viol, une agression sexuelle entre élèves, si vous n'agissez pas, vous avez vraiment le risque d'être lynché sur les réseaux sociaux. Donc, il y a eu Sciences Po, etc., qui ont conduit à des démissions de chefs d'établissement dans le supérieur, notamment. Du coup, en fait, si vous n'agissez pas, vous allez être. Le problème des réseaux sociaux, c'est que c'est très difficile on va dire, de contre-attaquer par rapport à ce qui est fait, puisque c'est des rumeurs diffusées, etc. Donc, on ne pourra jamais vous reprocher d'agir pour assurer la santé et la sécurité des élèves par rapport à des faits sur lesquels on vous a alerté, des faits graves, et de prendre des dispositions où vous pouvez, droit dans vos bottes, dire voilà, moi je considère que le climat social, le climat scolaire est tellement perturbé, il y a une atteinte au bon fonctionnement, il y a une atteinte à la santé de mon élève, etc., suite au fait de signaler de violence sexuelle, je prends cette mesure d'exclusion. Et si, en fait, si l'élève il conteste en disant ah bah oui, mais présomption d'innocence, de toute façon vous aurez des éléments sur la dégradation de la santé de l'élève, etc. Et que ce soit devant votre supérieur, le DRAF, ou après le juge administratif, enfin, le DRAF, c'est dans le délai de 8 jours de mémoire, et après le juge administratif, il va statuer dans 2 ans. Donc si dans 2 ans, vous avez un juge qui annule une décision d'exclusion, mais que vous avez préservé votre climat scolaire, que vous avez évité une guerre sur les réseaux sociaux, des tags dans votre établissement. Moi, j'ai déjà vu des élèves avec, vous voyez, 2 clans qui s'affrontent, des fois des bagarres avec, il y en a qui soutiennent, etc. Vous avez assuré l'ordre dans votre établissement. Donc, si peut-être dans 2 ans, à supposer que la famille aille, parce que moi, je vois, il y a quand même peu de familles qui saisissent le juge administratif ou judiciaire, vous aurez, vous, assurer la réalité déjà de la sécurité dans votre établissement, le climat scolaire qui est quand même très important. Enfin, moi j'ai quand même de plus en plus de chefs d'établissement où des fois il y a des risques, des élèves qui appellent à des bagarres, à se retrouver pour des problèmes d'agression sexuelle, à se battre à la sortie des lycées, etc. Donc c'est aussi à prendre en considération parce que si par exemple vous voyez qu'il y a des appels à la bagarre liés à ces accusations de harcèlement sexuel, etc. Enfin, vous voyez, vous pouvez aussi motiver sur le fait que ça impacte gravement le climat scolaire avec donc je pense que c'est tout ça à prendre en considération. Et encore une fois, vous ne portez pas atteinte à la présomption d'innocence parce que votre faute disciplinaire n'est pas la faute pénale. Donc il peut y avoir une relaxe de la personne et vous, votre faute disciplinaire, elle est en fait, vous, elle est constituée par la matérialité des faits que vous tirez des témoignages que vous avez réunis. Et vous, votre objectif, comme c'est d'assurer qu'il n'y a pas d'atteinte aux personnes et aux biens dans votre établissement et d'assurer, selon la jurisprudence, de sanctionner des faits susceptibles d'interférer gravement dans le fonctionnement de l'établissement et que si c'est des faits qui sont liés à la qualité des faits d'élèves, vous voyez, de par la jurisprudence, il y a quand même un certain flou. Alors effectivement, c'est une zone grise, mais auquel vous pouvez vous rattacher si vous voyez que les faits, vous avez besoin de protéger quelqu'un, une victime, et d'assurer votre fonctionnement et votre climat scolaire, quoi.
Dernière question, François.
Ouais, je pense que la dernière question, vous avez répondu, puisque c'était sur le viol entre deux étudiants d'une même classe et dans un même internat. Donc, je pense que vous y avez répondu. Peut-être juste un commentaire qui a été de dire que lorsque l'on auditionne une victime d'agression sexuelle, c'est un peu particulier de ce point de vue. Et en général, il est préconisé de laisser la primeur au service de police spécialisé.
Alors après, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que vous vous disiez à la victime, voilà, je vous conseille d'aller porter plainte, surtout si c'est une mineure, vous informez la famille, etc. Le problème, c'est que vous, si vous ne réunissez pas d'éléments, si vous avez une victime en pleurs qui vous dit voilà ce qui m'est arrivé, en fait, vous, c'est votre rôle de chef d'établissement de faire un compte rendu en disant ce jour. Enfin, moi, j'ai eu un chef d'établissement. En fait, c'est un peu votre cas. C'était dans le supérieur, mais c'était une jeune fille qui disait avoir été violée par un élève le week-end, donc un autre élève de l'établissement. Elle est venue en pleurs avec une autre élève dire voilà, j'ai été agressée, etc. Et ben le signalement article 40 a été fait pour ce motif en disant voilà, une élève est venue en pleurs me signaler que il y a eu une agression, etc. Enfin, vous, de toute façon, à partir où on vient vous le dire, il faut bien qu'à un moment donné on vienne vous le dire pour que vous puissiez engager votre procédure. Donc effectivement, si la victime vient jamais vous le dire, ben vous faites rien. Mais en fait, vous pouvez pas vous défausser en vous disant moi je suis pas compétent. Vous, vous êtes pas là pour apprécier l'infraction pénale, vous êtes là pour recueillir la parole d'un élève et voir s'il y a une atteinte dans la sécurité et le fonctionnement de votre établissement. Donc, et après, votre conseil à vous pour le coup, c'est de dire voilà, c'est important que vous alliez au commissariat, allez voir votre médecin, et au commissariat on va recueillir votre parole de façon avec des gens formés pour, etc. Mais vous êtes obligé à minimum de recueillir ce qu'a dit l'élève. Après, vous pouvez aussi auditionner elle est venue avec sa meilleure amie, l'élève à qui elle s'est confiée. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous dites bah non, je peux pas, je suis pas compétent, mais après vous pouvez demander à votre infirmière scolaire de venir éventuellement, peut-être. Ou si la jeune fille, excusez-moi, veut pas, parce que vous êtes un homme, par exemple, parler, vous pouvez dire est-ce que tu veux parler à l'infirmière scolaire? Enfin, vous voyez.
Puis comme vous disiez tout à l'heure, dès qu'on est au courant d'un délit ou d'un crime, il nous revient effectivement c'est l'article 40 et voilà. Et donc, je pense que dans ce cadre-là, ça me semble judicieux de pouvoir le faire, voire même obligatoire. Après, c'est les forces de police et c'est le procureur de la République qui décideront. Mais je pense qu'il est important d'entendre, comme vous dites à juste titre, la victime, potentiellement donc les personnes qui l'accompagnaient, même si ça se passe effectivement en dehors d'établissement, mais en étant au courant d'un délit ou d'un crime, on est tenu d'en référer au procureur de la République.
Oui, c'est ça. Je pense qu'en fait, je trouve que effectivement les règles de droit se multiplient et je trouve que du coup tout est un peu embrouillé. Vous, pour que ce soit clair, c'est qu'en fait vous n'êtes pas un juge pénal. Donc vous, quand on vous rapporte un fait qui peut être de nature pénale, de toute façon vous vous posez mais aucune question. Vous dites on m'a signalé une agression sexuelle, un harcèlement, un viol, peu importe que ce soit fondé ou pas fondé, c'est pas votre problème. Non, ce que je veux dire c'est que vous êtes pas policier et vous êtes pas procureur, chacun son boulot. Vous par contre, vous allez recueillir dans l'établissement les paroles de vos élèves parce que vous votre objectif n'est pas de savoir s'il y a une infraction pénale, votre objectif c'est de savoir s'il y a une atteinte aux personnes dans votre établissement et si le fonctionnement de votre établissement est en danger et si la santé et la sécurité de vos élèves est en danger. Donc après du coup, c'est pas le même niveau. Donc en fait, si du coup une jeune fille vient en pleurs en vous disant j'ai été victime d'une agression sexuelle, ben, vous allez noter, vous allez faire un compte rendu en disant elle est venue ce jour me dire qu'elle était victime d'une agression sexuelle, etc. Il s'agit pas évidemment de l'auditionner pendant 3 heures et de lui tirer les vers du nez sur le fait de savoir s'il y avait consentement ou pas. Vous prenez le témoignage tel qu'il est, vous la faites signer et vous faites votre signalement article 40. Vous entendez sa meilleure copine et vous, par contre, vous lui donnez des conseils. Vous lui dites qu'elle peut aller voir l'infirmière si vous en avez une, vous lui dites d'aller au commissariat, d'aller voir son médecin, que vous prévenez sa famille si elle est mineure, etc. Mais c'est ça, c'est vous déculpabiliser, de vous dire oui, mais il y a la présomption d'innocence, etc. Vous, en fait, votre seul objectif, c'est de préserver votre climat scolaire, la sécurité de vos élèves, qu'une élève vienne pas la boule au ventre. Et à la limite, dites-vous toujours qu'est-ce que je voudrais qu'on fasse si c'était moi qui étais dans sa situation. Si vous allez voir votre employeur en disant bah moi j'ai été agressée par mon collègue le samedi soir, j'ose plus venir sur mon lieu de travail, comment vous voudriez que votre employeur gère votre situation, si vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que ça aide aussi de savoir comment en termes on gère, si on se dit mais s'il m'arrivait la même chose en tant qu'adulte, par exemple si ça arrive à un professeur et qu'on me dit moi comment je vais gérer en tant qu'adulte pour préserver, qu'est-ce que je vais, voyez, même si c'est des enfants et des pouvoirs, et par rapport à vous, comment est-ce que vous voudriez qu'on le gère par rapport à vous, quoi. Et voilà, donc il faut pas se dire moi je suis pas enquêteur, parce qu'effectivement vous n'êtes pas enquêteur, mais juste vous recueillez la parole des gens. Et puis par exemple moi sur des accusations d'agression sexuelle, si elle en a parlé à des copines, bah je vais recueillir le témoignage des personnes à qui elle s'est confiée, qui vont dire oui, elle m'a dit qu'elle avait été victime d'une agression et qu'elle ose plus venir à l'école, qu'elle a peur quand elle le croise. Et ce qui fait que vous constituez un dossier que sur à la fois l'impact sur sa santé, sur le fait qu'elle en a parlé à plusieurs personnes, éventuellement que le présumé agresseur va se moquer d'elle ou va faire des sourires en coin, ou voyez. Mais après, si peut-être bah c'était finalement pas un viol parce qu'il y avait un consentement et que c'était qu'une agression sexuelle, bah ça sera peut-être dans 3 ans, et puis ce sera la police et le procureur et le juge, quoi.
Écoutez, alors il y a une dernière question, puis on va s'en arrêter là. Donc une fois le témoignage recueilli, souvent la police tient à entendre la personne qui a recueilli le témoignage. Est-ce que cela entraîne un problème si cette personne siège au conseil de discipline et de fait devient une partie de l'enquête pénale? Je crois que vous avez répondu, mais je vous laisse peut-être répéter.
Alors déjà, ce qui est un peu bizarre, c'est que normalement, vous, quand vous faites votre signalement article 40, vous mettez déjà tout ce que vous avez. Donc, si vous avez recueilli la victime, bah, vous mettez. C'est pour ça que je vous conseille de faire le compte rendu, parce que ça se pose même pas. En fait, ça, comme ça n'a rien à voir, c'est pas parce que vous avez recueilli la parole, vous l'avez recueilli en tant que chef d'établissement, et vous siégez en tant que chef d'établissement. Donc, peu importe, vous n'êtes
Tout
pas.
à fait.
En fait, vous n'êtes pas parti, puisque vous n'êtes pas parti à. Vous n'êtes ni témoin. Moi, ni parti, vous êtes juste chef d'établissement et vous recueillez la parole sur ce qu'on vous confie, quoi.
Tout à fait. Écoutez, un énorme merci pour
Franck,
cette troisième. Oui.
juste peut-être une dernière question, mais qui est plus pour toi. Faut-il modifier le RI pour introduire le droit au silence?
Ben, je pense que, alors, c'est une très bonne question. Je pense que oui, puisque normalement, le règlement intérieur doit aussi donner tous les éléments aux différents usagers de l'établissement. Mais je pense qu'on va attendre ce que disait à l'instant Maître Piot, savoir si au niveau du disciplinaire, quand on aura plus d'éléments par rapport au droit au silence, d'attendre un peu plus d'éléments pour pouvoir faire une modification sur le règlement intérieur.
Oui, alors là-dessus, j'abonde dans votre sens. Je pense que vous avez intérêt, par sécurité, dans les convocations, c'est juste une phrase à rajouter, dans les
Ça.
convocations aux procédures disciplinaires, que ce soit chef d'établissement ou conseil de discipline. Moi, je modifierai pas tout de suite le règlement intérieur, parce que on voit la jurisprudence là de décembre 24, elle a commencé à dire que finalement, on n'annulait pas la décision du conseil de discipline s'il y avait des éléments de preuve par ailleurs qui ne découlaient pas que
Ah,
de l'auto-incrimination. Donc, je pense que comme c'est très mouvant, je vois pas l'intérêt de vous, voyez, modifier tous vos règlements intérieurs, ça serait une perte de temps, voilà. Mais moi, je mettrai la phrase. Je sais que vous n'êtes pas obligé, mais je mettrai la phrase parce que ça vous coûte rien et bon, ça, voilà, ça fait un peu plus de sécurité juridique.
Et puis donc on m'a repéré effectivement une erreur. Alors c'est passé quand même au conseil d'État, enfin Conseil d'État, c'est une erreur dans le code rural hein, qu'il va falloir qu'on revoie, parce qu'à un moment donné, c'est marqué l'exclusion temporaire de plus de enfin, pour le conseil d'État, le chef d'établissement, je vais y arriver, c'est l'exclusion temporaire jusqu'à 15 jours de l'établissement.
Oui, alors, c'est 8 jours normalement dans le code
alors, de l'éducation. Alors, c'est 8 jours à l'éducation nationale et nous l'avons porté à 15 jours au ministère de l'Agriculture dans le code rural. Sauf que dans deux articles, il y a contradiction. Donc, je viens de prévenir notre conseiller juridique qui va prendre cela en charge avec François Ruchot pour voir une évolution du code et une évolution également de l'instruction technique.
Ah oui, parce que c'est resté à 8 jours quand c'est le chef d'établissement, c'est ça?
En fait, à un moment donné, c'est marqué 15 dans la liste des sanctions. Mmh. Et à un autre moment, sur la responsabilité du chef d'établissement, c'est marqué 8 jours.
Ah oui, d'accord.
Et donc, c'est passé au Conseil d'État, c'est passé entre les mains de tout le monde. Et du coup, ça n'a pas été relevé. Donc, il va falloir qu'on fasse, mais c'est en R. Donc,
On va pouvoir le modifier. Et je vous envoie donc la convention sur les partenariats pour que vous puissiez peut-être vous en inspirer de signalement. Parce que ça fait quand même quelque chose peut-être de rassurant pour les chefs d'établissement.
Ah, complètement, avec un grand merci.
Voilà. Alors, on est d'accord que c'est parce que vous, comme vous avez beaucoup de privés, là, c'est la direction diocésaine, mais c'est pareil, vous, comme c'est pour les établissements privés, parce que finalement, vous avez beaucoup de privés, en fait, dans le monde agricole.
En fait, on a 60% de jeunes qui sont dans des établissements privés.
Voilà, c'est ça, ouais. Du coup,
Ouais. Bah écoutez, un énorme merci pour ces trois séquences qui vraiment sont très importantes pour notre système de formation. Donc pour les collègues, vous pouvez les retrouver sur Chlorophylle, donc en podcast. Donc vous allez pouvoir donc les réécouter, et le dire à vos collègues pour qu'ils puissent aussi les écouter si besoin. Et puis en fonction de vos éléments et de vos questions, peut-être d'autres sujets qui pourraient arriver, eh bien nous serons ravis de pouvoir faire appel à nouveau à Madame Pio. Merci maître.
Bah, merci beaucoup. En tout cas, je sais que le monde agricole, de l'enseignement agricole est vraiment très, très respectueux de toutes les règles. Parce que je sais que j'ai fait déjà un certain nombre de formations. Et vous avez vraiment, parce que même le privé, vous avez des possibilités d'appel pour le conseil de discipline, etc. Et je trouve que vous avez vraiment une vision très bienveillante et très respectueuse des règles de droit. Et on sent que vous êtes très soucieux de ça. Donc voilà, je trouve que c'est une belle avancée pour le bien-vivre de tous dans les établissements scolaires.
Un grand merci à vous.
Merci à vous.
Au revoir à tout le monde.
Au revoir.